Est-ce qu'on peut faire plus lourd que Final Fantasy VII Rebirth pour un programme de Sublimation Turbo? Je ne pense pas. Franchement,
je fais 149 gigas, il me semble.
Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il est. Il faut prendre le temps. Il faut avoir plutôt la fibre, hein, si vous voulez pas le télécharger en une semaine. En tout cas, on y a joué. Alors, autant faire un petit disclaimer. Voilà, on y a joué à des degrés plus ou moins longs parce que c'est un jeu très costaud, comme on l'a dit. Greg, tu sais quoi? C'est une vingtaine d'heures, quinzaine d'heures peut-être?
Non, un peu plus que ça.
Ah, quand même, d'accord.
Ouais, ouais. 25, je pense, un truc comme ça.
D'accord. Daniel, c'est
50 heures.
50 heures, c'est massif et ouais, j'ai vu la fin.
Toi, tu l'as fini.
73 heures. Voilà, ouais. Tout simplement parce que, on va le dire, c'est un jeu qui a une envergure absolument folle. Final Fantasy VII Rebirth, 4 ans après Final Fantasy VII Remake, qui avait peut-être émaillé votre confinement, puisqu'il était sorti en pleine dans cette période.
Il est sorti une semaine ou deux après le confinement. D'ailleurs, les gens ont été sympas. Ils ont envoyé le jeu avant la date.
Même avancé, ouais, pour que tout le monde puisse en profiter.
Ils n'ont pas fait ça cette fois-ci.
Non, c'est vrai.
C'est-à-dire qu'on est libre de circuler.
Final Fantasy VII Rebirth disponible donc depuis le 29 février dernier, uniquement, exclusivement sur PlayStation 5, pour une très bonne raison, c'est que celui-là ose le pari du monde ouvert. FF7 Remake était un jeu particulièrement cloisonné. Et bien, comme il y a une correspondance entre le jeu d'origine et celui-là, Final Fantasy VII Remake se concentrait sur la période de Midgar. Et après le fameux CD1 de Final Fantasy VII, on pouvait explorer toute la région autour. Eh bien, c'est le pari de FF7 Rebirth, c'est ce moment de récréation, si j'ose dire, le moment de la course-poursuite hors du territoire de Midgar, qui nous est relaté ici avec, eh bien, Cloud, Barrett, Tifa, Aerith, Red 13, qui vont partir explorer le monde gigantesque qui s'offre à eux. Daniel, tu voulais déjà réagir.
Je veux juste préciser, pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, on va faire toute une partie sans spoiler.
Oui.
On va se concentrer.
Chapitrer sans spoiler, puis chapitrer avec spoiler.
Voilà.
C'est
et
ça
encore avec spoiler, Pouillot va faire attention de pas nous spoiler.
Oui, bien sûr que évidemment.
On va parler de.
On n'entrera pas dans tous les détails narratifs. On entrera un petit peu plus dans certaines mécaniques ou certains ressorts ici ou là. Mais donc évidemment, vous avez le chapitrage, vous pouvez vous y reporter. On essaiera de mettre une autre balise au moment où on va rentrer dans le territoire des spoilers. Donc si vous nous suivez sur YouTube, ce sera relativement facile. Il faut que j'apprenne à faire le chapitrage sur Spotify, ça existe aussi. Et peut-être à cette occasion-là, ce sera l'occasion de le mettre en place. Comme ça, vous ferez. Enfin, Spotify et les autres applis de podcast, évidemment. Je pense à ceux qui rendent cette option disponible. En tout cas, Final Fantasy VII Rebirth est disponible et comme on l'a dit, il fait le pari du monde ouvert. On va peut-être commencer par là d'ailleurs, puisque c'est quand même la grande nouveauté de cet épisode-là, c'est vraiment de décloisonner ce qui pouvait être l'exploration dans Final Fantasy VII Remake, qui était un jeu très chapitré, un jeu très couloir, avec, vous vous souvenez, les petites balises au sol bleu qui, voilà, il faut monter là, il faut s'engouffrer dans ce couloir-là pour camoufler le temps de chargement, ce genre de choses. Tel Final Fantasy XVI, là aussi on reviendra peut-être sur la mise en perspective de ces deux jeux-là, eh bien, on est relativement libre d'explorer les différentes régions qui l'on va être
non, t'es libre,
oui, ouais, t'es libre. Oui, je disais que par exemple le jeu commence durant la démo de Nibelheim, qui est une démo disponible, donc c'est pas vraiment un spoiler, et tu t'aperçois que pour un jeu qui fait le pari du monde ouvert, au début tu peux pas vraiment explorer.
Oh, mais c'est un tuto.
Oui, mais c'est bizarre d'avoir une proposition de monde ouvert, de te retrouver contraint de ne pas pouvoir marcher ici et là.
C'est un tuto, ça passe en une heure, ça va.
Heureusement, très très vite, après 2 ou 3 heures, le jeu va vraiment ouvrir les portes en grand vers le monde de Final Fantasy VII. Et là, on va se transformer dans un... Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ? C'est un parc d'attractions ? C'est le monde ouvert à la Ubisoft ? Comment on pourrait le qualifier ?
Oui, moi je me suis vraiment senti agressé au début du jeu. Alors pas au début, après le tuto du flashback du village de Tifa. Quand tu te retrouves pour la première fois dans un monde ouvert... C'est un monde qui est ouvert mais qui n'est pas libre. Moi j'avais vraiment l'impression de jouer à Far Cry Fantasy VII parce que c'était horrible. À chaque pas, j'avais un truc. Et donc t'avances, t'as le gamin en short, là, Chadley, qui arrive. Salut Cloud, oublie pas, hein, j'ai mon simulateur de trucs. D'ailleurs, si tu vas là, ça va déclencher un truc.
Tu vas là.
Tu vas là, et là, d'un seul coup, tu commences à faire un truc, et oh, il y a un oiseau rouge. Il faut que tu suives l'oiseau rouge, parce qu'il va t'amener à un endroit qui est super. Tu commences à suivre l'oiseau rouge, là, hop, t'as un bébé chocobo. Il faut que tu suives le bébé chocobo, parce que sinon, tu pourras pas avoir accès aux arrêts de bus. Tu commences à suivre le bébé chocobo. Regarde, là, il y a un ennemi rare, il faut que t'ailles.
Avec des quêtes, et que t'arrives devant la quête, et t'as et 3 objectifs.
Voilà, ça ne s'arrête jamais.
Il empile les tutos.
Et surtout, tu ne peux pas en finir un. C'est-à-dire que t'es en cours d'en faire un, et tu peux pas finir, tu peux pas finir ce que t'étais en train de faire. Il y a une autre proposition qui arrive juste derrière.
Et la logique, c'était peut-être de dire, regarde tout ce que tu peux faire.
Ah ouais, mais c'est épuisant. C'est-à-dire que pour les gens comme moi qui ont souvent cette, tu sais, ça t'arrive des fois, tu vas dans une pièce et t'arrives dans la pièce, tu dis, merde, j'étais venu faire quoi déjà? Et t'as les clés dans la main et tu qu'est-ce que je devais faire déjà? Et pour les gens comme ça, c'est insupportable parce que je suis en train de suivre l'oiseau rouge et on me dit, hey, regarde, là, il y a un monstre machin. Donc, je vais tuer le monstre rat. J'ai dit, mais je faisais quoi déjà? Et après, donc, tu rentres et tu te fais engueuler par le gamin en short. Bah alors, t'as pas. Ah, excuse-moi, mais ouais, mais tu me demandes trois trucs en même temps. Enfin, c'est.
Donc, à chaque fois que tu vas activer la tour, il va, comme dans n'importe quel jeu, te montrer te proposer toutes les activités encore annexes.
Oui, voilà, genre, ça, donc, c'est pour ça que
je dis. Il y a ce phénomène de paillettes.
C'est pour ça que je parlais de Far Cry Fantasy VII. Ouais. C'est que dans chaque monde ouvert, en fait, quand tu regardes la carte, elle est grise et il faut que tu ouvres une antenne Wi-Fi. Voilà,
c'est des vieux réflexes de monde ouvert, ça, quand même.
Tu fais le dépanneur SFR, c'est-à-dire que t'arrives, il y a une tour. Alors au pied de la tour, il y a toujours un monstre. Voilà, décidé de garder la tour. Tu lui pètes la tête. Hop, alors c'est plus ou moins compliqué de monter les échelles. Alors c'est pas le niveau de Far Cry non plus, mais
au début tu allumes tranquille. Oui. Et après tu vas voir que il y a des tours qui sont conçues de façon puzzle.
C'est des demi-puzzles. Alors là c'est vraiment Far Cry 3 et 4.
C'est pas non plus Zelda avec l'activation des piliers.
C'est clair.
Mais donc tu actives le truc et là d'un seul coup ta carte s'illumine de plein de petits points. Là ça fait très jeu de 2010 en fait. Et après, bah, tu vois, tu dis, oh, bah, là, il y a un repère de brigand. Oh, bah, là, il y a un monstre célèbre. Oh, bah, là, il y a une, il y a des ruines qu'on n'avait jamais revues, sont là, en fait.
Je vais prendre le point de vue inverse. Est-ce qu'il était possible de concevoir un monde ouvert où tu es relativement libre dans un jeu aussi narratif que celui-là sans tomber dans cette espèce de piège de la multi-activité? C'est-à-dire, oui, tu aurais pu mettre des fils narratifs disséminés tout au long de la carte, mais c'est quand même un jeu qui est très balisé, Final Fantasy VII, où tu dois te rendre d'un point A à un point B.
Alors, je vais répondre à ta question, pas forcément de la manière dont tu l'attendais, mais pour moi, d'une manière générale, j'ai trouvé, alors c'est peut-être parce que je suis vieux ou que je manque d'attention, mais j'ai trouvé que ce Final Fantasy VII n'était pas très lisible. Il y a eu un débat avant que le jeu sorte. Il y a une semaine, il y a eu un débat sur les réseaux sociaux où les gens gueulaient parce que il y avait de la peinture jaune sur les murs pour escalader. Ils disaient ouais, c'est bon, j'ai pas besoin
de
ça.
C'est un reliquat du passé, ça. Mais en fait,
alors que moi, au contraire, je trouve le jeu très très peu lisible.
Ah bon ?
Alors déjà, je trouve que la caméra est trop proche du personnage parce que il faut dire ce qui est. Final Fantasy VII est un jeu graphiquement magnifique. Il est très très beau. Et comme il est très beau, justement, il est très fouillis. Il est, enfin, tu vois,
il y
a pléthore de textures partout.
C'est la moindre particule aussi.
La moindre feuille d'arbre est super détaillée.
J'ai eu des gens en stream qui se sont plaints des textures des pierres.
Ça peut être assez inégal, bah, surtout au début du jeu, hein, typiquement.
Genre, je me disais, c'est quand même dur. Hein.
Et le problème,
les gens sont durs avec ce jeu.
Voilà, et du coup, moi, je trouve que le jeu n'est pas très lisible parce que à force de vouloir être hyper réaliste dans ses forêts, parce que, enfin, toute la partie dans les mines. Pour moi, c'est illisible. Il y a des cailloux et des cailloux. Et c'est. Alors après, j'ai eu un bug. On en reparlera plus tard. Mais je trouve que la caméra est trop proche de toi. Et je pense que la meilleure solution, ça aurait été. Alors, je dis pas que je suis un grand game designer, hein, mais je pense que si la caméra avait été un peu plus loin de Cloud et que t'avais rendu les différents éléments du paysage un peu plus reconnaissables, parce que une tour verte au milieu des arbres, ça, enfin.
Très honnêtement, j'ai facilité mon exploration en mettant en activant la minimap par défaut. C'est-à-dire que de base, je crois que tu es en mode boussole, avec les itinéraires qui sont en haut, comme dans n'importe quel de Witcher.
Oui, oui, et il faut
sans
mettre
véritable minimap. Si tu passes par les options que tu actives la minimap, déjà, tu es un petit peu plus en confiance sur la zone environnante.
Alors oui, mais je reprendrai un des points positifs de FF16. Qui disait, on n'a pas mis de minimap pour que les gens regardent le décor.
Ouais, mais enfin, le décor de FF16, c'était du marron, donc c'était.
Écoute, FF16, j'ai trouvé FF16 plus. Alors, t'avais moins d'activité sur la map, mais j'ai trouvé FF16 plus lisible que celui-ci.
Daniel, je sens que tu t'échappes là, et j'aimerais que tu.
Pas du tout, pas du tout.
Ah bon, non, tu es concentré sur. Parce que les gens nous ont dit la dernière fois, on a vu Daniel s'échapper. Alors,
oui,
moi, je voudrais te maintenir avec nous en tension.
Parce qu'on avait bouffé, figure-toi. Ah, ouais, et on était. Et surtout. Ce que les gens savent pas, c'est qu'on commence à enregistrer à 10h30 et qu'on avait fini à 20h.
Ton rapport à ce monde ouvert façon parc d'attractions. Alors, toi, on sait que t'es pas fan de parc d'attractions, mais au-delà de la blague.
Non, mais j'aime bien.
Ce côté
alors, j'adore les mondes
ouverts. Far-cry-esque et ce côté. On n'a pas parlé, mais tu es constamment soumis à un loot intensif.
Alors,
qu'est-ce que tu penses de ça, là?
La première réflexion quand j'ai vu la map et j'ai vu, ah merde, il y a des tours à actionner et ensuite il y a des bricoles à faire et qui ouvrent à des mini-jeux avec un petit QTE de musique, un petit QTE de triangle, 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 un petit, et genre, je me suis dit, ah ok, d'accord, ils ont tout mis dedans. Et en fait, il y a un truc qui est assez intéressant dans ce jeu, c'est que tu peux les faire, mais tu peux aussi ne pas les faire. Et le jeu appelle un peu un truc en toi de complétisme. Hein.
Oui.
Parce que t'as envie de faire 100% de la zone, mais en même temps, tu comprends que si tu fais 100% de la zone, t'en auras pour 250 heures.
C'est
comme l'idée de Final Fantasy.
Si vous avez une espèce de psychose de la non-complétion et que vous voulez faire les régions à 100%, c'est peut-être pas le meilleur moyen d'aborder le jeu pour garder la rythmique globale du scénario. C'est-à-dire que je me suis un petit peu astreint à ça dans les premières et la deuxième région, et quand j'ai vu que c'était toujours le même cadva, et elle se répétait systématiquement avec la tour, l'invocation à affaiblir, le petit mini-jeu en plus, les chasses et les trucs.
Les coffres à trouver, les zones de coffres.
Je me suis dit, pourquoi, je suis
désolé pour l'anglicisme, mais il y a une levelisation, une stagisation de FF7. Le niveau de la mine. Alors, le niveau de la mine, est-ce que j'ai battu le boss? Oui, non. Est-ce que j'ai récupéré l'invoque? Oui, non. Est-ce que j'ai accès? Voilà, hop, j'ai fini ou pas? Hop, tu passes au suivant. Tu déclenches une cinématique, donc tu récupères soit Yuffie, soit machin, et on te dit, attention, voulez-vous vraiment aller là? Vous n'allez pas pouvoir venir sortir avant un moment. Donc,
il
hop,
a le bon goût de t'indiquer le niveau nécessaire.
Tu déclenches un event, voilà, t'as un tunnel de 3-4 heures où t'as surtout des cinématiques et un boss. Et après, pouf, un nouveau boyau dans lequel t'as des tours, t'as le mec en short qui te dit « Bonjour Cloud, j'ai des nouvelles épreuves pour vous. »
Qui sont exactement les mêmes qu'avant.
Et voilà, donc c'est un monde ouvert, mais c'est pas un monde où t'es libre, je trouve.
C'est pas un monde où tu t'impliques surtout.
Alors, mais je pense aussi que le jeu est en développement depuis très très longtemps, et cette espèce de côté très procédurier, en fait, je pense qu'il y a 2 ans, on aurait trouvé ça super, mais qu'entre-temps, Elden Ring a mis un coup de vieux à tout le monde.
Alors, il y a un truc, c'est que je trouve que, quand même, le jeu se prend la tête à te proposer tout ce monde ouvert, mais en même temps, il n'oublie pas ce que c'est qu'FF7. Et c'est-à-dire qu'il y a des moments où tu es dans des entonnoirs narratifs, c'est les meilleurs moments du jeu.
Je vais te le dire comme je le pense, je trouve qu'il y a 2 jeux qui juxtaposent.
C'est-à-dire que quand le jeu devient tout d'un coup quand FF7 reprend ses droits, et tout d'un coup t'as les boss, t'as les donjons, t'es dans un truc, il y a une espèce d'urgence parce qu'en fait
reste une course poursuite.
Voilà, je voudrais
il y a le côté Shenmue du monde
ouvert.
C'est
très important pour moi. FF7 est quand même c'est un jeu de course poursuite. J'adore les RPG de course poursuite, j'adore des Q8. T'es à la poursuite de Sephiroth, mais il y a aussi des gens qui te poursuivent. Et les moments où tu sens cette intensité, c'est le moment où le jeu il est génial. Vraiment, le FF7 Rebirth est génial quand tu sens cette urgence, quand tu sens les mecs qui te poursuivent, quand tu sens que Sephiroth est devant toi, mais tu sais pas où il est et tout ça. Et en fait, à partir du moment où tu dois aller chasser des mugs, trouver des maillots de bain, où tu dois parce qu'on allait chasser les mugs, à un moment, attirer les poulets.
Attirer les poulets avec des canettes.
Moi j'ai attiré les poulets avec des canettes, et à un moment j'en étais à 50 heures. Je me disais,
Ça reste une quête secondaire, hein, le côté des poulets. T'es pas obligé de le faire.
Oui, les mugs aussi, c'est
oui, c'est secondaire. Mais c'est en fait tu joues à Final Fantasy, t'as envie d'avoir toutes les armes,
mais les infiltrations de chocobo.
Mais oui, en fait c'est un jeu qui est d'une générosité tellement folle que t'as des milliards de trucs, des dizaines. T'as une bonne dizaine de mini-jeux, je pense, qui sont de toute façon assez inégaux. Mais il y en a qui sont très très bien. On y reviendra peut-être.
Ah non, on va y revenir.
On va y revenir. Non, mais c'est sûr qu'on va y revenir. Et d'un autre côté, t'es pressé par le temps, et comme tu le dis, c'est vraiment les moments où t'as la belle cinématique, où t'as la mise en scène incroyable, où t'as le combat de boss palpitant. Ça c'est vraiment les meilleurs moments. Et d'un autre côté, t'as l'impression qu'on t'a glissé, enfoncé un monde ouvert au forceps qui est un petit peu superflu. Alors j'ai entendu une position qui consiste à dire, avant tu tournais en rond dans la région autour de Midgar pour faire ton level up, là finalement ton level up au moins il est gamifié, t'as des trucs à faire et t'as des gens à voir, t'as des ennemis à affronter, ce qui se tient complètement. C'est une vision que tu peux faire. D'un autre côté, le level up, t'as l'impression qu'il est séquencé aussi, c'est à dire que finalement les niveaux augmentent assez lentement. Et c'est pas long, hein. Un ou deux niveaux de différence qui vont changer complètement le tunnel narratif dans lequel tu vas t'enfoncer.
Alors ça dépend de la difficulté dans laquelle tu joues. Moi je pense que les niveaux de difficulté, alors il y a le mode facile qui est vraiment sympa.
Ah, c'est carré
mais tu as le mode normal et le mode dynamique où les ennemis s'adaptent à ton niveau. En fait je pense que ce mode dynamique est très bien pour les complétistes. Parce que justement si tu... En fait le jeu est fait pour que tu le joues de manière réaliste. Enfin, c'est mon expérience en tout cas. Et je pense que par contre, si tu prends le temps de faire toutes les quêtes et tout, tu roules sur le jeu parce que t'as trop de niveaux, t'as trop d'argent pour acheter les objets.
Justement, le différentiel n'est pas si grand entre le moment où tu fais une région à 100% et celle où tu la traverses tranquille.
Moi, je suis pas d'accord. Ou alors, j'ai vraiment dû beaucoup monter de niveau, mais je mourais beaucoup à un moment.
Le jeu n'est pas facile.
Je suis parti faire toutes les quêtes du mec en short. Et quand je suis sorti de toutes les quêtes, que j'ai équipé les bonnes matérias et tout, j'ai roulé sur le jeu. C'est-à-dire que là, le mont Corel, les ennemis ne me tenaient pas 10 secondes.
Oui.
Donc je pense que si tu fais vraiment beaucoup d'épreuves, il vaut mieux jouer en dynamique pour garder un peu ce challenge. Parce que le système de combat aussi est... comment dire, si c'est facile, t'en profites pas en fait.
Avant d'aller plus en profondeur sur le système de combat, je voulais simplement vous poser une question. Est-ce que vous prenez du plaisir à explorer le monde avec le système de parcours qui est mis en place ?
Moi, c'est très variable. Et je trouve que, et ça, c'est un truc qu'ils ont fait d'assez intelligent, c'est que je trouve que toutes les zones ont leur identité propre. Le désert, où t'es plus buggy. La jungle, où si t'as pas de chocobo, t'es rien. Il y a le moment où tu montes vraiment une vraie randonnée, quoi, un vrai truc où tu montes la montagne et tout. C'est vraiment pas mal. Moi, j'ai bien aimé ce passage. Et en fait, ça dépend vraiment des zones. Par exemple, la jungle repose sur un truc de gameplay de, il faut avoir le chocobo pour ensuite sauter de champignon en champignon.
C'est vrai que les zones sont très différentes en matière d'approche d'exploration.
Je trouve que les persos ont vraiment beaucoup d'identité et les zones ont pas mal d'identité aussi.
Mais simplement la mécanique, c'est pas Death Stranding, c'est même pas Forspoken en termes de parcours. C'est quand même assez, parfois t'as l'impression que tu peux grimper de rocher en rocher sans problème, puis des fois t'es contraint par des murs invisibles, mais c'est pour ça,
c'est encore une fois, on parle de lisibilité. C'est-à-dire que les gens se sont plaints que les falaises étaient peintes en jaune. Moi, je pense qu'il aurait fallu qu'il y ait des vraies balises sur ce que tu pouvais faire et ce que tu ne pouvais pas faire. C'est-à-dire qu'il y a des... je veux pas repartir sur Charpentier-San, mais il y a des trous que tu peux sauter. Et d'autres trous, on dit « Ah bah non, il faut que tu fasses tout le tour de la mine et que tu ailles résoudre une énigme à la professeure Layton pour faire basculer un truc, alors qu'il y avait quoi, 50 cm en plus par rapport au pont que tu as sauté un peu avant ?» Tu vois, le mont Corel, où tu es obligé de... Non, c'est les mines de Mistril, pardon. Où tu es obligé de monter tout en haut, puis de redescendre, parce que Cloud, il est fatigué, il peut pas sauter la voie de chemin de fer. Juste après, tu les vois faire un saut deux fois plus grand que ce qui était là, et c'est embêtant, je trouve, parce que on se retrouve encore avec ces problèmes de plus un jeu est réaliste, plus il faut faire gaffe à ce qui reste plausible derrière.
On l'a pas dit que c'est aussi la promesse, c'est la mise à l'échelle de Final Fantasy. C'est ça aussi qui donne
à l'échelle, parce que
ça qui demande aussi un monde d'une telle envergure.
Rappelons-le, le jeu original, il y a plusieurs échelles, il y a l'échelle du combat, il y a l'échelle de la ville, et il y a l'échelle du monde extérieur.
Et puis c'est pas très bien respecté.
Je veux juste dire un truc, parce que là les gens vont dire, oh là là, mais ils sont en train de charger le jeu. Comparé à FF16, c'est un bonheur de chaque instant. Je veux dire, je préfère
l'exploration du monde ouvert, tu veux dire,
et même l'exploration, les mini-games et tout, genre tout en tant que plaisir global de jeu. Après ce qu'on a vécu sur FF16, c'est vraiment...
T'es en train de me faire la conclusion. Bah, peut-être justement,
mais en tout cas,
mettre en évidence les points positifs. Et parmi les points positifs, là on voit les mini-jeux, on y reviendra, promis, hein, quoi qu'il arrive, on ne échappera pas, parce que c'est vraiment très important d'en parler. Il y a quand même l'un des principaux points positifs, à mon avis, c'est la façon dont ils sont à nouveau réapproprié le système de combat original de Final Fantasy VII, qui avait déjà été vachement mis en avant dans Final Fantasy VII Remake, et qui là revient encore une fois.
Quand tu vois les
solidités,
les efforts qu'ils ont fait depuis FF15,
tu voulais mettre un petit taquet à FF16. Bon, c'est vrai que
FF15 aussi,
et même
quoi.
FF15, mais la différence de niveau. D'implication et de stratégie que tu peux avoir dans FF7 Rebirth,
et de complexité et
en même temps de simplicité par rapport à tout ce que le jeu essaie de magasiner
au final, hein.
Bon, évidemment, il faut avoir les codes de Final Fantasy, donc il faut savoir ce que c'est un ATB, etc. Le tuto, bon, même s'il est ce qu'il est, c'est Vaut mieux avoir joué à Remake d'une certaine façon.
Après, ça dépend des personnages que tu joues. Hein. C'est, mais, ça dépend de qui tu joues.
Et ça, on peut y venir aussi. Mmh. La qualité de gameplay, de chaque d'individualisation de chaque personnage, je veux dire, FF7 Rebirth, c'est un jeu qui rend miraculeux le fait d'incarner Kate Sith. Kate Sith, ouais, c'est peut-être le personnage que j'ai toujours laissé en retrait, ouais, dans Final Fantasy VII, parce original.
Parce qu'il est un peu aux F.
Là, non seulement le personnage est particulièrement mis en valeur par le scénario, parce que c'est son moment.
Ne tape pas la table, plus, parce que pardon, ouais, fait des grimaces.
Désolé, c'est l'enthousiasme, vous savez, c'est mon côté Patrick Helio. Mais en plus, le système de Kate Sith, mais il est incroyable. J'étais en train de m'endormir sur le jeu, je le disais à Daniel, parce qu'on se parle. Je disais, le jeu, il avance pas et tout, il est trop long pour.
On sent bien,
ce qu'on aura l'occasion peut-être de dire aussi tout à l'heure. Et au moment où j'ai eu Kate Sith avec son gameplay particulier, donc tu dois invoquer le Mog, tu dois monter sur le Mog, il a une stat qui est indexée sur la chance, donc si tu boostes la chance, il va faire des dégâts incroyables. Et ben, t'as un nouveau personnage que tu redécouvres. On avait redécouvert Yuffie dans Intergrain, oui, qui est un personnage très efficace. On a Red 13 au début du jeu, qui a toute une mécanique de garde, oh, de vengeance, ouais, parce que le jeu introduit désormais le système de garde parfaite, qui n'était pas là dans le premier.
Et de stagger.
Et de stagger.
Le stagger était là, mais le stagger qui est proportionnel à la garde que tu mets.
Exactement.
Avec Red 13.
Oui, il y a un stagger que tu peux renvoyer à l'ennemi, et si Red 13 part dans le bon moment, il va étourdir l'ennemi.
Tu vois, je ne suis pas un joueur de Red 13, mais je suis un joueur de Yuffie. Je suis complètement,
craqué aussi.
Je me suis réapproprié complètement les combos du personnage.
Parce qu'elle peut,
le ninjutsu là, ouf, c'est
parce
tellement
que elle s'adapte à toutes les faiblesses des ennemis. Et comme le jeu repose beaucoup sur le stagger, le fait de percer la faiblesse ennemie, ça te permet de faire monter cette jauge plus rapidement.
Faut pas se fatiguer,
elle le fait à distance en plus.
Oui.
Et elle peut se dédoubler.
Elle peut triangle, dédoubler.
Elle a des shurikens hyper puissants. Enfin, mais ça, c'était le réflexe d'Intergrade. Mais
elle a un combo
là.
Plus combo de plus sur le combo.
Et dans Intergrade, elle évoluait en duo. Et là, avec la synergie qui se crée avec les autres membres de l'équipe qui déjà avait un gameplay absolument incroyable, je pense à Tifa qui est ouf, Barrett qui est vraiment très plaisant à jouer, bon bah Claude on en parle pas,
Barrett c'est vraiment le tank, quoi.
Ouais, c'est le couteau suisse, il peut tout faire,
c'est-à-dire tu le mets de loin et tu peux reprendre l'esprit de ton équipe et tu peux leur redonner de la vie.
Je trouve ça dommage d'ailleurs qu'on puisse pas enlever Claude de l'équipe.
Oui, ouais. Pourtant le jeu fait l'effort de beaucoup répartir les équipes et les compositions très très régulièrement, début à la fin.
Quand
t'as Claude chez toi, tu peux pas l'enlever, et c'est dommage parce que il y a des synergies qui paraissent évidentes avec d'autres personnages, et là
t'as envie d'en profiter
et t'en profites pas toujours. Mais le système, c'est vraiment de l'orfèvrerie.
Le système de combat
entre les matérias que tu peux activer pour justement compenser les forces et les faiblesses de chacun, mais ça c'était déjà présent. Il y a l'ajout des attaques synchronisées, donc c'est les petits points qu'on voit sous les barres de vie qui permettent donc d'avoir des attaques synchrones entre les différents membres. C'est quelque chose d'un héritage de JRPG classique depuis Chrono Trigger, mais ça marche très très bien là aussi. Au début, je trouvais
était vraiment très récompensé, hein.
Ouais.
Enfin, il y en a quelques-unes qui sont vraiment très très
celles qui poursuivent l'état de choc et celles qui rajoutent une jauge d'ATB.
Oui,
franchement, c'est
quand tu pètes un ennemi en choc et que tu lui balances ta transcendance, ton attaque jumelée, tout, tu lui balances tout dans la gueule.
Toutes les attaques qui montrent le pourcentage de dégâts supplémentaires, notamment chez Tifa et Kate.
Ça, c'est un bon système de stagger. Parce que t'as pas l'impression d'affronter un sac à PV. Tu sais que à partir du moment où tu vas le stagger, à partir de ce moment-là, tu sais que tu l'auras.
Ouais.
Mais c'est bizarre parce qu'on voit de plus en plus de systèmes de stagger. Et celui-là, ils ont trouvé le bon équilibre.
Oui, mais là, ce qui est malin, c'est que le stagger, c'est pas uniquement exploiter la faiblesse de l'ennemi, c'est parfois réagir à ce qu'il va faire, c'est-à-dire éviter telle ou telle attaque, se protéger de telle ou telle chose. Et du coup, il y a une multitude d'approches en fonction de la typologie de l'ennemi. Alors, il faut l'analyser pour la connaître, pour que le jeu te la donne. Après, tu peux essayer de l'imaginer. Si t'as un ennemi de glace, bon, tu sais que t'as magie de feu, ça va le stagger d'aussitôt. Mais c'est pas uniquement lié à une seule mécanique, c'est lié à plein de choses qui vont venir s'imbriquer. Et en plus, les compositions d'ennemis qui vont être mises face à toi jouent sur cet aspect-là. Et ça marche vraiment très bien. Le seul point négatif que je trouve aux attaques synchronisées, c'est qu'elles dépendent désormais d'un menu, d'un sphérié.
Oui.
Qui n'est pas forcément non plus très très lisible.
Alors le sphérier, non seulement il n'est pas lisible, et puis surtout je trouve qu'il ne t'amène pas grand chose. Il faut vraiment aller loin dans le sphérier. Et là.
Et il faut faire déjà des équipes, il faut composer des équipes dans sa tête avant de déclencher le sphérier, parce que si tout d'un coup tu fais Cloud Tifa alors que
tu joues pas Tifa,
t'as pété.
Les points que tu vas péter pour activer l'attaque synchronisée ne vont pas te servir à grand chose.
Oui, et puis en plus le sphérier est dépendant non pas de ton niveau d'expérience, Mais ton niveau d'amitié, oui. C'est-à-dire qu'il faut que vraiment tout le monde s'entende bien, sinon tu peux pas. Et c'est pour ça d'ailleurs, je pense que le Sphérié est principalement composé de d'attaques groupées. Mmh. Parce que voilà, plus 3 en attaque, plus machin, il y en a très très peu finalement, par rapport aux nouvelles compétences que tu as à débloquer pour les groupes.
C'est vrai que les sphères les plus intéressantes sont celles qui te permettent de booster la TB. Et c'est peut-être le seul point négatif, enfin l'un des seuls points négatifs que je relèverais dans ces mécaniques qui sont quand même particulièrement bien gérées et particulièrement bien adaptées au niveau de difficulté, c'est que tu restes quand même dépendant de la façon dont la jauge d'ATB va monter. Et malheureusement, les partenaires qui sont laissés en retrait, gérés par ordinateur, ils sont trop lents à activer leur propre ATB.
Ils sont mous. Hein. Heureusement que tu as la matéria de Tifa qui lui permet d'activer ses propres attaques.
Alors, je me demande dans quelle mesure c'est pas fait exprès ce côté mou et cette nécessité d'être un petit peu au four au moulin et de zapper entre les différents personnages. Il n'y a pas le côté Tales of, il n'y a pas le côté FF16. Il n'y a pas ce côté tu regardes ton personnage attitré et c'est lui qui va tout faire. Tu es quand même obligé de switcher entre les différents personnages et ça aussi qui motive le fait de bien équiper leur matéria.
Mais ce qui m'embête là-dedans, c'est que du coup, tu peux pas forcément profiter de certaines manières de jouer. C'est-à-dire, par exemple, tu veux jouer si tu veux jouer plus en distance. J'ai remarqué un truc, c'est que la console triche entre guillemets. C'est-à-dire que l'aggro, elle est sur le personnage que tu
contrôles.
Et tu peux l'abuser, ça d'ailleurs.
Ah bah oui, bien sûr. Bah moi, dès qu'il y a un ennemi qui me saute dessus, hop, je change de perso. Bah, oui. Donc l'ennemi fait demi-tour et puis du coup, bah tu le tabasses.
Ah, moi, je me balade de loin.
Mais voilà, dès que Barrette est loin et que tu prends le contrôle de Barrette, d'un seul coup, tout le monde se retourne vers toi. Enfin, ça n'a aucun sens. Enfin, si tu as joué à des MMO, la gestion de l'aggro, elle est ratée, quoi, je trouve. Et ça te permet pas. Tu vois, moi, j'aime bien jouer à Aeris.
Je pense qu'elle est nécessaire, mais elle est superficielle, du coup.
Moi, j'aime bien jouer à Aeris parce que t'es vraiment dans la préparation. Tu sais, tu poses tes glyphes, et on te fiche jamais la paix. Mmh. Alors que c'est un personnage qui est conçu justement pour pouvoir placer des mines un peu partout sur le terrain pendant que les gars au corps à corps se prennent des coups.
Malgré la téléportation, elle se fait aggro, elle s'en prend plein la tête aussi.
Les persos sont pas identique ni égaux devant l'aggro et l'IA aussi.
Non, mais c'est encore une fois, les monstres sentent qui tu contrôles et ils basent leur aggro là-dessus, pas au nombre de dégâts que tu leur fais.
Ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'ils ont pris en considération tous les retours des joueurs en essayant de mitiger cet aspect-là qui avait déjà été relevé dans le premier. C'était déjà quelque chose qu'on avait vu, notamment le fait que le soin était dépendant de l'ATB. C'est-à-dire que sans jauge d'ATB, tu peux pas activer de potions, sans jauge d'ATB, tu peux pas utiliser cure. Ouais.
Mais du coup, je trouve que le jeu, là, est très généreux en potions.
Alors, ouais, déjà, cette générosité-là, qui va en plus de pair avec tout ce qui concerne la synthèse. Ouais. On en a parlé, hein, du loot qui est partout et du craft que tu peux réaliser.
Tu ramasses des boulons et des fleurs dans tous les
coins. C'est interminable. Et je pense qu'une petite option de ramassage automatique
aurait pas
la matéria, ramassage automatique,
ça aurait
été sympa.
Parce que pour
l'international version. Ouais.
Combien de fois j'ai détourné mon chemin juste pour un petit truc qui brille au loin.
Surtout que l'interaction ne marche pas tout le temps. C'est un petit peu le côté Yakuza 8.
Triangle,
tu passes à côté, il va pas forcément aller choper le truc parce que tu vas trop vite ou parce que le centrage sur le matériel que tu veux ramasser par terre ne se fait pas. Donc je voulais revenir donc sur la question de l'ATB. Ils ont essayé de mitiger ça. Déjà, tu as une matéria qui s'appelle magie auto, compétence auto, qui te permet, en unifiant avec une magie, de faire en sorte que le personnage qui est laissé au contrôle de l'IA active en priorité
celle-ci.
La magie qui est associée à cette matéria-là. Ça te permet déjà d'avoir notamment Barrette qui utilise la fameuse grosse décharge chère à Hubert. On avait fait une vidéo comme ça, c'était marré.
Qui est une des compétences les plus gratuites du jeu d'ailleurs.
Ouais. C'est... au moins tu es sûr que quand Barrette est gérée par l'IA, Barrette va utiliser grosse décharge. Et même tu peux mettre matéria auto, magie auto soin à Aerith par exemple. Ça peut servir et donc tu vas l'avoir.
De toute façon, moi, quand t'as Barrette,
passif comme ça.
Quand t'as Barrette dans l'équipe, il faut commencer par prendre le contrôle de Barrette et balancer grosse décharge. Et après, tu passes à un autre perso le temps que grosse décharge se recharge, justement. Parce que sinon, il ne l'utilisera pas de lui-même.
Et t'as même une autre matéria qui s'appelle, je crois, maîtrise des objets, qui te permet également de mitiger cet aspect de soins coûteux avec des activations d'objets qui seront gratuites. C'est-à-dire que si t'as ton cloud et que tu sais pas trop jouer, au moins tes premières potions, tu pourras les activer sans forcément aller jusqu'à...
Tu vois, j'utilise pas toutes ces options, moi.
Moi, je suis plutôt...
Je sais que tu es un homme de... Je t'ai vu jouer Elden Ring, depuis que je t'ai vu jouer Elden Ring, je sais que tu es un homme du sabre et du...
Voilà, je suis un homme de brut.
Voilà. Tu es un brut forceur. Mais,
j'aime le truc un peu cash.
Mais si tu utilises, par exemple, Turbo ATB avec Kaitis, là, tu deviens le roi du monde parce qu'il est ultra puissant.
Turbo ATB, ouais, elle est vraiment utile, par contre, j'utilise. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités de customisation avec finalement pas autant de persos que ça. Et je trouve ça assez intéressant.
Et quand tu joues à ça et que tu repenses, désolé pour le tag gratuit, mais que tu repenses à la manière dont Final Fantasy XVI était mononeuronal et hyper limité.
Ah, je trouve que c'est un peu facile de taper sur FF16 aujourd'hui, là où justement la proposition du jeu, bon, qui a échoué, mais au moins il proposait quelque chose, c'était justement une simplification. Mmh. C'est-à-dire que le postulat de base de FF16, c'était voilà, on va vous faire un grand jeu d'action-aventure narratif.
Et... Ouais, mais là, tu sacrifies pas la complexité. Le jeu est peut-être un petit peu plus difficile à prendre en main qu'un Devil May Final Fantasy XVI, mais au moins, t'as quand même une richesse.
Bien sûr, je suis d'accord, mais tu t'adresses pas au même public.
Tu vas toucher très très vite.
Alors, c'est pas le même public. Je pense que déjà, FF16, tu regardes les ventes attendues de FF16 et les ventes attendues / ventes réelles de FF7 Remake, il y a quand même quelques millions d'écarts. Ils savent qu'ils vendront pas autant de FF7 que de FF16. Donc, ils peuvent se permettre de faire un jeu plus compliqué, entre guillemets, je pense. Il y a aussi, alors même si évidemment les développeurs...
Tu peux pas enlever les matériels, les trucs comme ça.
Bien sûr.
Évidemment, même si les développeurs disent qu'ils espèrent qu'un nouveau public s'emparera d'FF7 grâce à ce jeu, on va pas se mentir, la majorité du jeu est surtout jouissive pour les gens qui ont connu l'ancien. Et le jeu est construit comme ça d'ailleurs. Je pense que si tu connais pas le FF7 originel, il y a quelques petits trucs qui te passent au-dessus de la tête, mais il y a surtout la moitié des scènes qui sont sympas, mais où t'es pas genre ah oui c'est
pas machin, t'as pas l'impression d'avoir le jeu tel que tu l'imaginais transfiguré et encore qui va au-delà de ton imaginaire de 97.
C'est un excellent jeu, mais je pense que si t'as pas fait l'original, tu loupes quelque chose. Donc il y a ce côté regardez, c'est comme dans vos souvenirs mais en plus qui le rend forcément plus complexe. Mais excusez-moi, je me faisais l'avocat d'FF16, mais je pense que c'est une bonne chose que chaque personnage ait une jouabilité différente dans FF7, parce que l'un des points forts d'FF7, c'est justement d'être ultra scénarisé, d'être ultra narré, et c'est là-dessus que ça repose. Je repense à l'émission précédente où on disait justement que Granblue Fantasy, c'était compliqué parce qu'il n'y avait pas trop d'attachement aux personnages.
Là, on est dans l'hyper attachement.
La dynamique entre les personnages, elle est incroyable.
Le jeu est très bien écrit.
Et on le verra après quand on dira dans le côté scénario, spoil, enfin, plutôt quand on parlera du scénar. Il y a des apartés sur les personnages intéressants, les origines de tel ou tel perso.
Et c'est jamais pénible. Ouais. C'est ça qui est intéressant. C'est ça
genre,
qui
t'as envie de savoir.
Ils sont drôles, la dynamique d'équipe marche encore mieux qu'elle ne marchait dans le jeu d'origine. Et c'est vraiment. C'est magique à ce niveau-là.
Je pense qu'il faut passer à l'étape d'après et qui est l'étape la plus importante de ce jeu.
Ah, l'étape des mini-jeux.
Les jeux de pêche.
Évidemment.
Alors on disait que c'était un jeu. Il n'y a pas de jeu de pêche, je crois. Je l'ai pas vu. En tout cas, c'est un jeu qui est d'une générosité, mais.
Oui.
Délirante.
Incroyable.
Délirante. Vraiment, c'est. Bah, FF7 avait déjà beaucoup de mini-jeux. Parce que forcément, il y a l'épreuve du Gold Saucer qui là revient.
Surtout parce que le jeu n'avait pas énormément d'envergure.
Ouais.
Je veux dire, t'étais quand même dans un bled.
Alors là.
Et là.
Qu'est-ce qu'on a?
Et là, on te remet tous les anciens. T'as le Gold.
Petit point, Queen's Blood obligatoire.
Queen's Blood. Alors, faut le dire. Tout le bien qu'on dit de FF7 Rebirth, c'est que c'est un bon jeu. Mais qui est offert avec Queen's Blood.
Ça, c'est ta take, ça.
Ouais, Blood, franchement.
Au début, t'étais pas convaincu. Non, hein, Encore une fois, je t'ai dit. Attends.
Non, mais je me souviens.
Attends, Denis. Je lui ai fait un petit attends, Denis.
J'ai envoyé un message à Pouilleux. J'ai dit, mais putain, j'en ai plein le cul. Et Pouilleux, il me dit, essaye de changer tes builds, essaye un petit peu de machin. Et là, j'ai eu l'illumination.
Eh oui.
C'est le meilleur jeu de cartes depuis Marvel Snap.
Non, mais vraiment.
Ah ouais, non, parce qu'il comprend la valeur pour moi de ce que c'est qu'un jeu de deck. Alors. Moi, je suis pas un grand joueur de jeux de cartes et machin, tout ça, mais...
T'es pas un maître du duel.
Il y a un truc que je trouve important, pour en tout cas à mon envergure de ce qui me plaît, c'est qu'il faut que le jeu puisse être un deck pas trop compliqué à faire, mais en même temps instinctif de jeu, et surtout des parties courtes. Une partie de ça, ça dure 2 minutes et demie, 3 minutes.
Et tu peux relancer très vite, parce que si tu
Très vite.
Tu t'es abandonné, tu repars.
Et
ce qui m'est arrivé de multiples fois sur la fin.
Et alors, tu sais quoi, une fois que t'as compris le truc, tu fais « Oh !» Parce que tu comprends que tu peux faire des decks un peu différents. Tu peux faire un deck offensif.
Ah, tu es même contraint à des moments.
Tu peux faire un deck défensif, tu peux faire un deck destroy. Exact, c'est les mêmes termes que Marvel Snap. C'est-à-dire, tu fais un deck destroy avec ton Galactus qui bouffait tout le monde. Là, par exemple, tu peux mettre une carte qui va détruire les autres cartes ou qui va rajouter d'autres cartes. Il y a une carte qui va mettre du bonus à d'autres. Et vraiment, c'est très très intéressant de s'y plonger.
Ouais.
Et c'est pas si compliqué surtout.
Bah, surtout, t'as souvent la.
C'est un peu obtus.
T'as très souvent l'avantage du premier tour. C'est très très rare les mises en situation où c'est toi qui vas jouer en deuxième.
Ah ouais, non.
Quand t'as quand même un avantage assez considérable. Alors, mais ce qui est bien,
deuxième
c'est
tour,
que
c'est,
un certain...
c'est que tu peux quand même contrer les zones et re-recontrôler les zones qu'il aura prises avant.
Ce qui est bien, c'est qu'à partir d'un certain stade, tu vas aussi avoir un mode puzzle.
Ah,
intégré au Queen's Blood.
Ouais.
C'est-à-dire que tu vas arriver à un endroit où on va te dire, t'as des épreuves imposées avec un certain nombre de cartes. Ou avec c'est toi qui commence en deuxième ou et ça va te tu vas intégrer les mécaniques avancées.
Mais c'est bon, ça je préfère le mode puzzle moi.
Ouais.
Le mode duel
ouais.
D'ailleurs.
Il est génial le mode puzzle.
Parce que ça t'apprend quelques synergies assez faciles à mettre en place si toi tu as envie de t'en servir derrière.
Et t'essayes de comprendre.
Mais ça c'est vraiment la cerise sur le gâteau des différents mini-jeux. Mais t'as plein de choses. Il y a le Rocket League avec Red 13.
Mmh. Ah oui.
Ah oui.
Qui est pas si mal.
Il est très très drôle.
Qui est rigolo.
En plusieurs versions.
Je trouve que
Rocket League.
La console, elle a tendance à liguer tous les animaux contre toi. Je trouve.
Ah ouais, je l'ai trouvé amorphe.
T'as pas de bol. Moi, les espèces de panthères noires horribles. Elles se mettent toutes contre moi, le chocobo il défend, donc
il y a la version Rocket League, mais avec puzzle aussi.
Oui.
Où tu dois balancer les balles dans
un certain camp. C'est quelque chose qu'on avait déjà vu.
Tu as le casse-brique, ça c'est un truc qu'on avait déjà dans le jeu précédent.
T'as le shoot them up que Hubert a montré, bon, t'as le saut, alors ça. Et ce qui est bien, c'est que chaque mini-jeu, t'as quand même un véritable objectif. Les récompenses du mode avancé de chaque
jeu. Il y a toujours une récompense qui te
hyper intéressante.
Qui te donne. T'as toujours des armes incroyables.
Il y a des récompenses qui te donnent envie et je sais que à cause de ça, j'ai boosté. Il y a des jeux que
Il y a des jeux auxquels je m'étais pas forcément intéressé, notamment il y a un jeu de tir de cible, tir sur cible, avec des degrés de précision où tu peux avoir le matériel chronomancie qui est pété du jeu. Ouais. Bon, je me suis astreint à faire.
Directement.
La course de Chocobo est évidemment largement mise en valeur au Gold Saucer avec des différentes variantes d'équipement parce que en fonction de l'équipement que tu mets à ton Chocobo, il va aller plus ou moins vite, avoir plus ou moins de bonus.
Et beaucoup de trucs à craquer, hein, comme tu vois, ils volent.
Mais c'est là, le but. On a vu qu'une petite portion de tous les mini-jeux. Il y a le Tower Defense qui est de retour qu'on avait déjà.
Ah, il y a la box.
Ça, c'est dégueulasse par contre.
Ah oui, donc
le Punch Out, il est nul.
Ah, le Punch Out, il est
nul. C'est un des rares cas où vraiment je me suis dit, j'ai pas envie de jouer à ça.
Je suis pas fan du Gold, enfin du Tower Defense.
Ah oui.
Le Tower Defense, je trouve un petit peu trop aléatoire à chaque fois.
Le tir au pigeon. Hop.
Bah, le Tower Defense, en fait, tu t'adaptes à ce que l'ennemi va t'envoyer puisque tu vois exactement les unités qui vont arriver. Et en plus, t'en as pas qu'un seul Tower Defense. T'as deux variantes de Tower Defense. T'en as une autre.
Mais le jeu de tir au pigeon, il est super, hein, parce que.
Là, on le voit. Là.
Le jeu de tir au pigeon est un peu stratégique parce que tu dois attendre.
Il faut apprendre les enchaînements de cibles.
Parfois, elles se retournent. Elles donnent deux fois plus de points.
Et le pourcentage de précision est très important dans le calcul final. Donc, tu peux pas non plus aller à l'emporte-pièce.
Ah, tu peux pas tirer n'importe où. Oui.
Et il faut le dire un truc. Si vous êtes des complétistes, c'est-à-dire si vous voulez faire 100% dans la région, eh bien, il faut tous les faire.
Bon courage pour avoir le S au piano. Hein. Pourtant, je suis un dingue des jeux musicaux.
Ah oui, c'est dur.
Il y a des mots. J'ai fait que A. S. Il faut faire. Je crois qu'il faut faire aucune erreur en fait.
Ah ouais. Donc, j'y arrive pas encore. Et bien entendu, à chaque musique qu'on remplit en A, il y a le juge qui nous fait ah ouais bah écoute je te donne ce super item.
Une potion.
Il y a toujours des bons trucs. Hein. Toujours. Il y a un item très.
Honnêtement,
très bien,
on pourrait dire oui c'est pas Mario Kart. Oui c'est pas.
Non, chaque mini jeu est inférieur au jeu dont il.
Mais
la qualité générale est très très bonne.
C'est l'anti Kingdom Hearts. Kingdom Hearts, ils mettaient plein de mini games et tout. Et on se retrouve à ramasser les crabes et c'est chiant et tout ça.
Quand même, c'est d'un gros niveau. Hein,
là,
pour des mini jeux.
Il y a quand même vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de plaisir dans les jeux. Hein. Ouais. Vraiment, ils ont gamifié tous les aspects possibles. Enfin, vraiment, il y a des trucs. Il n'y a pas que le truc où on fait des abdos. Il y a vraiment plein d'idées.
Et du coup, quand t'arrives au Gold Saucer, bah, t'es saucé parce que vraiment, t'as plein de choses à voir. Et en fait, l'étendue du casino est gigantesque et tu pourrais dire, ah, il faut que j'aille dans cette zone-là. Mais en fait, à chaque fois, tu vas découvrir un nouveau truc qui va te dire, ah, en fait, ça valait vraiment le coup et c'est peut-être l'un des passages les plus kiffants du
jeu. Les minigames les plus nazes, il faut le dire, c'est quand même ceux que t'es un peu obligé de faire. Pour moi, les mugs, la course aux mugs.
Celui-là, il est affreux.
Ah, les abdos, ouais.
Ouais, vraiment, trop dur.
Ouais, il faut prendre le coup.
Donc, mais le mini-jeu de Mog.
Le mini-jeu de Mog, je le déteste. La moto, évidemment.
C'était naze dans le premier, c'est naze dans le deuxième.
Ouais, c'est genre. Bon, ils auraient pu mieux fait de pas le mettre, mais bon, ils l'ont mis quand même.
Il l'avait sous le coude, tu le mets.
Et,
je pense.
Et alors, l'infiltration des chocobos, j'ai envie de détruire ce Pokémon.
Non, pas Goinfrex. L'infiltration de chocobos, c'est.
Je pense que, tu sais quoi, il y a une raison pour laquelle personne ne fait plus de jeux d'infiltration depuis Kojima, c'est que il y a que Kojima qui savait les faire. Le jeu d'infiltration le plus nul, il est vraiment catastrophique. Mais en même temps, il y en a tellement. Il y a tellement de jeux, tu peux pas dire.
Oui, il suffit de continuer uniquement les jeux qui t'intéressent.
Tu peux pas dire que Rebirth est nul parce qu'il y a le jeu de ramassage de poulets est naze.
Mais globalement, c'est un peu Rebirth. Tu peux pas dire que. Tu peux dire, ah, le rythme, je le trouve mauvais, mais en fait, c'est un jeu à la carte. Tu fais ce que tu veux au moment
où
tu veux.
D'avancer.
Si t'as envie d'avancer, tu peux avancer, le jeu ne va pas sanctionner.
En plus, les personnages te le disent, c'est-à-dire que tu peux être Team Tifa et Aerys, oui. On prend le temps de s'amuser et de balader. Où tu peux être Team Barrett, bon allez là, on a un monde à sauver. Mmh. Et les deux options te permettent de rester dans le scénario du jeu. C'est ça qui est bien, c'est que tu, dans d'autres jeux qui proposent ce genre de progression, tu peux dire, ah ouais, mais tu parlais de Shenmue tout à l'heure, c'est exactement ça. Je vais pas jouer à Outrun, faut que j'aille venger mon père quand même. Mmh. Là, vraiment, c'est même scénaristiquement justifié. C'est-à-dire que Tifa et Aerys disent « Non mais c'est bon, de toute façon, Sephiroth, il va pas faire péter le monde avant qu'on arrive, donc on peut bien se détendre un peu. » Donc
tu vois,
tu peux même pas te dire « Ah ouais, enfin, t'as même pas cette pression de « Ah si, il faut que je me dépêche, faut que je... » Si t'as la pression, c'est parce que t'as envie d'aller plus loin. Et moi c'était le cas, moi j'avais pas envie de faire trop de mini-jeux, j'avais pas envie de débloquer toutes les tours Far Cry, tout simplement parce que moi je m'intéresse... plutôt à la manière dont ils ont réécrit l'histoire originale. Et j'étais pressé. Tu vois, je dis, ah, là, il va y avoir ça. Il faut vite que j'avance pour voir comment est-ce qu'ils ont mis tel passage en mode 2024. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, voilà, le mec en short qui a besoin que j'aille scanner une pierre, bah, il attendra, tu vois.
Faut être assez honnête, c'est un jeu qui peut être fatigant pour les gens de...
Comme les gens qui jouent des open world.
Ouais. Oui.
Alors, je veux dire trop foisonnant ou...
Non, mais faut quand même avoir un temps.
Pour les gens qui ont un emploi, tu vois.
Non, mais même un emploi du temps.
On sort de Ryuga Gotoku.
Oui. Disons qu'ils sont peut-être mal dans les agendas personnels, mais c'est un jeu qui demande quand même de faire beaucoup de place dans son temps perso. Parce que, alors, si t'as que ce jeu-là à jouer pendant 3-4 mois, ça va être le pied. Mais si t'as besoin d'avancer, si tu veux te concentrer sur la rythmique.
Disons que si on
pouvait
avoir un nouveau confinement, ça t'arrangerait.
Est-ce qu'on ouvre un.
Pitié, non.
Est-ce qu'on fait. Je fais la transition vers l'histoire. Doucement. Mais
donc l'histoire sans spoil à ce stade.
Ah non, attends, on n'y est pas encore à l'histoire. Mais ce que je veux dire, c'est que. Il y a un truc qui aide à cette dissonance entre minigame et jeu. Il y a une intensité dans le jeu. Et en même temps que les minigames, c'est un peu à la fête du slip. Il y a un truc qui aide et c'est l'humour global du jeu et je trouve que le jeu est très très drôle et c'est pas donné à tout le monde maintenant parce que globalement quand tu fais des personnages en plus avec un rendu très réaliste et tu sais que c'est pas dans la tradition de tous ces RPG où c'était une représentation en SD ou c'était une représentation parodique ou de pastiche où il y avait des personnages très je qualifierais de Tales of, mais tu vois ce qu'on appelle avec Greg affectueusement la comédia dell'arte du RPG. C'est-à-dire que bah il y a la tsundere, enfin tu vois, c'est des personnages auxquels tu peux te référer et qui a une vraie qui fait la marque d'un RPG. Bah je trouve que justement dans celui-là, l'humour fonctionne bien, la dynamique entre les personnages, les dialogues sont assez chouettes. Il y a pas de moment. Alors les gens peuvent dire ah c'est un peu cringe Japon et tout ça, mais je trouve que pas vraiment. Pour moi en tout cas, mon goût personnel, je trouve que ça fonctionne bien et ça permet de faire passer à la fois les mini-games et que tout d'un coup le ridicule d'aller faire du football avec Red 13 ça passe.
Il y a juste des petites séquences maillot de bain, des petits moments clin d'œil
on te dit oui il te faut un maillot de bain pour aller à la plage
mais c'est en même temps Pouillot, on est devant un jeu de fanservice quand même.
Ah bah là,
et puis surtout, 100%,
ouais. On est devant un jeu de fanservice, c'est un jeu qui s'adresse aux gens qui ont joué à FF7 à l'époque, qui maintenant ont de l'argent pour se payer une PS5, alors qu'avant c'était peut-être leurs parents qui lui ont fait une PS5.
Si t'as 20 en maths, t'auras une PlayStation.
Voilà. Et qui se disent, ah là, je vais rejouer un peu les mêmes aventures mais en différent. Je pense que un peu de cheesecake, c'est pas la mort. Voir des beaux garçons et des jolies filles, ça fait partie de l'univers FF7 en fait. Hein. C'est pour ça que Nomura les a dessinés comme ça à l'époque. Et je trouve que la réadaptation est assez rigolote, quoi. C'est vraiment, je trouve ça très quali par rapport à ce qui s'est fait. Maintenant, dans l'écriture du jeu, il y a un vrai
Spoiler. Allez, est-ce que c'est le moment où on enclenche le spoiler?
Ah non non, un dernier détail, pas spoiler.
Ah, j'allais parler de
Arrêtez
Frame Rate,
de taper sur la table.
Ouais, mais on est enthousiaste. Ça va, Hubert?
Il faut dire un truc. Attrape Pouillot. Hop. La musique.
Oui.
Oh, la musique, elle est ouf. Oh là là, les réorchestrations. C'est déjà la première fois. Ils nous ont fait une masterclass en termes de réinterprétation des airs. Traditionnel de Final Fantasy VII et tout, mais là ça pousse encore le, puisque ça réadapte les trucs de map, les musiques de map,
et musique dynamique en plus suivant que tu rentres en intérieur ou pas, que le combat se termine ou pas,
dans
que...
telle ou telle zone t'as des airs différents. Le mambo des chocobos, il a des petites sonorités vraiment uniques à chaque fois, parce que les musiques sont un peu différentes de zone en zone. C'est
la production value. Oh là là,
le côté dynamique des musiques est effectivement très très impressionnant. Moi, j'ai été moins emballé que vous par les musiques. Je trouve qu'elles accompagnent le jeu.
Ah,
mais...
Attends d'arriver dans certaines zones. Non, mais
elles accompagnent le jeu et tout, c'est bien, mais c'est pas ce que je mettrais en avant. Et pourtant, je connais les airs et tout, il n'y a pas de problème. Mais elles m'ont moins marqué que dans le précédent. Je pense qu'elles sont moins thémisées.
Greg a raison, c'est que dans le premier, vraiment, il y avait un thème. Et il réutilisait le thème de manière très intelligente. Et il passait en mode basse quand tu étais juste en train de marcher. Tout d'un coup, ça se réintensifiait. J'adore ce genre d'effet. Ça se réintensifiait au moment de combat. C'est un truc que Fire Emblem fait d'ailleurs assez bien, je trouve, d'utilisation dynamique de la musique. Et c'est vrai que, évidemment, ils nous ont fait le coup la première fois. C'est presque un cliché de dire, ah, ils ont vraiment cartonné la musique. Mais vraiment, c'est vraiment du très très beau boulot de ce côté-là. Vraiment, je suis assez abasourdi par ce qu'ils ont fait. Et c'est le genre de truc que j'ai envie de réécouter quand ça sera disponible sur les plateformes de streaming.
Je crois qu'on sous-estime aussi le fait qu'un tel monde ouvert avec autant de possibilités de parcours,
ah oui, non, mais c'est un travail de titan,
tourne aussi bien à 60 fps quand tu actives le mode performance. C'est vrai, non mais je fais le petit point, Frame Rate obligatoire. C'est vrai que comme les gens l'ont dit sur ton stream, Daniel, les cailloux sont moches. Oui, les cailloux sont moches quand tu les mets quand tu joues en mode performance, donc pour avoir le meilleur frame rate. C'est évident, c'est vrai que il faut passer en mode fidélité. Non, mais déjà, oui, on est d'accord. C'est moche.
Ça va, quoi.
Le jeu est splendide. Alors, oui, certaines textures sont assez inégales. Oui. Et c'est vrai qu'en plus, il y a un petit gap en termes de. Les personnages sont flous quand tu joues en mode 60 fps. Et dès que tu passes en mode cinématique, ils sont tous absolument. Ouais.
Très net.
Une somme de détails absolument incroyable.
Très, très Yakuza.
Mais voir quand même un monde d'une telle envergure avec des zones aussi ouvertes et la possibilité de grimper et d'avoir des combats dynamiques qui se déclenchent aussitôt, tout ça, l'appel au chocobo qui se fait quasi instantanément, assez peu de temps de chargement, on a l'impression d'être dans Dynasty Warriors, tu appuies et hop, tu montes directement sur le chocobo.
Mais surtout le confort global de l'expérience,
oui. La profondeur de champ,
les menus sont pas nuls.
Faire tourner tout ça le moindre accroc ou presque, honnêtement,
quand tu montes en hauteur et que tu vois la totalité du monde, c'est quand même impressionnant.
C'est une sacrée performance, là aussi, merci l'Unreal Engine, mais merci aussi le talent des gens derrière, parce que vraiment,
c'est pour ça qu'ils ont choisi l'Unreal Engine 4, ils ont décidé de ne pas passer sur le 5, c'est qu'ils maîtrisaient déjà le 4, donc il n'y a pas eu de temps d'apprentissage en fait.
Alors c'est vrai qu'il est moins détaillé que Final Fantasy XVI, un titre simplement comparatif.
Mais moi je suis preneur de cailloux moins beaux si c'est pour avoir un jeu plus intéressant.
Il y a une somme d'interaction et une somme de dynamisme à tous les niveaux, parcours, équipe, grimpe, tout ce que tu veux. Oui, effectivement, t'as 2-3 rochers qui jurent un peu, mais globalement, dans la totalité du jeu, c'est hyper impressionnant.
Est-ce qu'on parle?
On y va?
De un peu, on va dire, l'expérience globale. Alors, moi, je spoilerai pas en disant. Déjà, on en a été resté avec des serpillères volantes quand même.
Ah, mais alors là, sur quel territoire on nous emmène?
On rentre dans le...
Alors, on va rentrer dans le dur, là.
On rentre dans le dur.
Alors,
on est spoiler alerte, du coup?
Ouais, spoiler alerte. Donc là, on va passer à...
Je pense pas qu'ils seront...
Une petite dizaine de secondes. Non, on va pas aller jusqu'à la fin.
50 heures, 30 heures et 80 heures, presque.
Mais on va donc activer la balise spoiler.
Ou au moins dire nos impressions sur le ressenti de l'histoire.
Tout à fait. C'est le moment de glisser à la fin du... Au moment où on mettra notre famille de Tsumimasen, voilà, si vous êtes en train de regarder la vidéo. Et puis, je pense qu'on en a pour un petit quart d'heure, allez, facile. Allez.
Ouais,
allez, Daniel, donc, on entre dans le vrai territoire, dans le marécage du spoiler.
Au Serpillière.
Ouais.
Moi, j'ai un problème avec conceptuel du jeu, et je pense que c'est la seule fois où on verra un remake de cette envergure. C'est que ils ont découpé un jeu qui se tenait narrativement pour en faire trois. Et j'ai toujours ce sentiment de pas avoir, surtout dans le deuxième épisode, de voir ni d'intro, ni de développement. Et je sais pas comment sera la conclusion, puisque je l'ai pas encore fini. Mais en gros, moi, ce que j'aime dans les RPG, principalement dans les RPG, hein, c'est le setup, c'est le build-up, c'est le moment où tu réunis les persos. Là, les persos, ils sont tous un peu déjà réunis. Il y a cette ville de laquelle tu dois fuir, mais en même temps, tu peux y retourner quand tu veux, ce qui est très bizarre.
Mmh. Bon, non, on te dit que les hélicoptères sont partis.
Oui, ils sont partis, mais bon, ils sont de temps en temps.
Ils savent que t'es plus là, donc.
Mais bref, il y a un peu cette dissonance, et en fait, je pense que inévitablement, pour arriver à essayer de faire un RPG comme ça, tu es obligé d'ajouter du gras. Et alors, du gras, il y en a vraiment beaucoup. Il y a des moments où je me dis, mais est-ce que je suis obligé de passer par là pour vivre l'histoire centrale? Parce que c'est l'histoire centrale qui m'intéresse plus. Et je pense que les gens qui dashent à travers le jeu, qui vont d'un point à un autre de l'histoire sans trop se préoccuper du reste, je me demande s'ils n'ont pas la meilleure expérience.
Ah, en termes de rythmique, tu veux dire.
En termes de ce que ça raconte.
C'est sûr. Je pense que jeu, tu dois le traverser.
Il faut être Tim Barrett.
C'est-à-dire que tu fais tout ce qui t'est proposé sur ta ligne droite, mais par contre...
Tu l'essaies une fois,
mais tu vas à l'objectif. Ouais. Parce que moi, j'ai fait quasiment toutes les régions à 100%.
Ouais.
Et j'en...
Et t'es épuisé à la fin.
J'étais épuisé de tout ça. J'avais l'impression qu'on m'avait mis un open world boursouflé à côté de la partie intéressante du jeu, que je faisais pour les biens de cette émission, mais qui ne m'intéressait pas. En tout cas,
t'as changé, Pouillot, t'as changé.
Non, mais faut donner le meilleur à son public. J'avais l'impression d'avoir une grosse verrue qui pendouillait.
C'est dégueulasse.
Qui pendouillait.
Okay. Il a aimé le jeu, hein, je vous rassure.
Non, mais j'adorais. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'assez superfétatoire. À côté de vraiment les passages qui m'intéressaient. Et du coup, j'avais le sentiment d'être contraint par quelque chose qui allait à l'encontre de la logique du jeu. À tel point que je me suis demandé, est-ce que l'open world que tout le monde appelait de ses voeux, c'était la meilleure décision à faire pour Final Fantasy VII Rebirth? Oui, bien sûr.
C'est dommage, on ne spoil pas encore.
Parce qu'il faut vendre le jeu. Il faut intéresser les gens, et le monde ouvert, il n'y a rien de tel aujourd'hui pour captiver le plus large
possible. Oui, mais l'intérêt d'un monde ouvert, c'est de le découvrir.
C'est de te l'approprier, pas de te dire ici il y a ça et là il y a ça, et si tu fais 300 mètres, tu vas ouvrir trois coffres cachés.
Il y a un petit peu dans cet open world, un peu de moments, ce que j'appelle du wishful thinking, c'est-à-dire les gens voulaient tellement un open world de FF7 et on leur a fait ça ressemble à ça.
Est-ce que c'est le syndrome Palworld? Genre, si on donne aux gens ce qu'ils veulent, au final, c'est pas si bien que ça?
Vu l'accueil critique du jeu, je pense que au contraire, c'était
pas si bien. Hein, moi,
ça a touché en plein cœur les cibles.
Je trouve que c'est vraiment, ça se tient, hein, par rapport à des open world que j'ai fait récemment. Je trouve ça plus intéressant que le truc de Sony. Comparativement, là, on suit des animaux, mais ça m'a beaucoup plus
animé. C'est pas un renard, c'est un...
Voilà, ça m'a beaucoup plus inspiré que de suivre des renards.
Mais là où le jeu est malin, c'est qu'il dit... T'en as rien à faire, vas-y. T'as les clés du camion, c'est toi qui fais ce que t'en fais. Tu fais ce que tu veux.
C'est-à-dire que toi, tu t'es senti.
Le truc bleu, quoi.
Tu t'es senti obligé de le faire. Alors que si tu le fais pas, tu vis l'aventure.
Je pensais, Daniel, que tu allais nous parler de la nomoraisation du jeu.
Alors, qu'on
a de la volonté d'unifier certains autres jeux.
Alors, j'y viens.
Qui tombent comme un cheveu sur la soupe.
J'y viens, et là, on rentre véritablement en spoiler. Là, c'est maintenant la balise. C'est qu'on a été resté avec les serpillères. Qui n'était pas le truc de lore le plus intéressant que FF7 Remake nous avait donné. Tout d'un coup, et d'ailleurs, je me demande à quel point, c'est pas une vision méta, mais Balette, il dit c'est quoi ces putains de serpillères?
Lutin.
Lutin.
Barrett, il dit pas lutin.
Barrett, il est cash. Mais il le dit, hein, il dit, c'est quoi ce but.
Oui, j'ai trouvé ça drôle. Je pense que c'était un hommage à Sumiyasen Turbo.
Ouais, je pense aussi. Mais bref, tout d'un coup, d'ailleurs, beaucoup de gens ont dit que c'était Nomura, mais en fait, c'était plus.
C'était Sumiyasen.
Nojima.
C'était Nojima qui est le scénariste, mais aussi, comment il s'appelle, Torishima ? Non, c'est Toriyama l'autre. C'est Toriyama. Oui.
C'est Toriyama le scénariste.
Toriyama qui, lui, a dit et si on faisait ça à Nomura ? Et Nomura, il devait être par fax à ce jour-là. Et il a dit ouais, pas de problème. Et ils ont fait ce que eux pensaient être du Nomura. Et ils ont rajouté les serpillères. Et là, les serpillères sont devenues.
Les
Kingdom Hearts, des hommes en capuche.
Alors, en fait, c'est pas les mêmes. T'as les serpillères et t'as les culomanto, donc les manteaux noirs. Donc, ils ont des rôles assez différents. Mais en tout cas, là, tu vas être cerné à tous les moments. Quoi que tu fasses, de mec complètement groggy à cause de l'intoxication à la Mako, donc on avait déjà vu par ailleurs, les manteaux noirs. Et tu vas les retrouver tout le temps. Tu prends le bateau, t'as les manteaux noirs, t'arrives sur la plage à Hawaï, Costa del Sol, ils sont là et. Ils sont tout le temps là.
Et ils font partie du décor.
Et les gens sont là à côté, ils font ah là là, c'est Clodo, qu'est-ce qu'il traverse.
Alors, j'aime autant. Non, il y a aussi en mode c'est quoi, c'est Clodo, faut qu'il dégage.
Et j'aime autant te dire que si tu en mets partout des mecs en manteau noir, bah le manteau noir, il est plus manteau noir. Bah, enfin, oui. Je veux dire, ça n'a plus
ça
aucun
Clodo,
sens. Mais ça n'a plus aucun sens narrativement, ça n'a plus aucun sens dans l'histoire et tout. Je pense que c'est un truc dont ils auraient pu se passer.
Alors, il y a un sens narratif.
Il y a un sens, c'est que comme tu cours après ces Sephiroth et eux aussi. Donc du coup,
pour comment s'appelle le renouveau ? Non, comment ça s'appelle ?
Réunion.
La réunion, pardon.
Et je trouve que c'est pas très bien. Ça, c'est l'aspect vraiment le moins bien, le moins intéressant.
Si, avec ça.
Mais attends, je comprends pas ce que tu lui reproches. Qu'il y ait des mecs qui suivent ses fiances ?
Non, mais ils sont pénibles. Ils sont vraiment genre tout d'un coup.
Mais ils sont pas. Enfin, ils ont
l'impression d'avoir des. Enfin, des.
Ils servent.
Ils servent de
ils servent à te rappeler.
De ressort narratif.
Oui, ils prennent le bateau avec toi. Enfin,
quand
c'est un peu ridicule.
Bateau, ça rime à rien.
Et alors, oui, par contre, qu'ils montent sans billets, j'ai trouvé ça un peu con.
Ensuite, il y a les autres gens avec des capuches. Parce que
les fileurs.
Je sais pas si on peut dire les capuches, les manteaux
les
noirs.
Serpillères,
les serpillères.
Non, mais il y en a un autre. Et à un moment,
parce qu'il y a un autre personnage.
C'est au tout début. C'est pas au tout début, mais dans les 10 premières heures. Et c'est supposé être un gros reveal.
Alors c'est un gros reveal pour les trois qui ont joué à The First Soldier en France.
Et là, le mec, il enlève, c'est genre, oh là là, on va voir un méchant et tout, parce qu'il y a des scènes où les méchants font dans leur base, on est les méchants. Et là, tout d'un coup, il y a un mec en capuche, il fait, je suis méchant. Il arrive et tout.
Encore plus méchant.
Et il enlève sa capuche. Et moi, je fais, qui c'est ?
Ouais.
Je fais, qui c'est ?
Parce que t'as pas joué à The First Soldier. Parce que la volonté
jouer à
du
First Soldier ou à Ever Crisis, puisque c'était un des héros de First
la
Soldier.
La volonté du jeu, c'est de réunifier aussi
tout ce qui est
les univers
autour,
Final Fantasy VII.
Alors je peux dire que c'est nul.
Est-ce qu'il y a une ref à Air Guys ? Ou qui est allé plus loin que moi ?
Non. Y compris donc des jeux qui ont fini d'être exploités en fait.
Oui. Et genre.
Et qui ne sont pas.
Les refs à Dirge of Cerberus, peut-être que ça fait plaisir à 2-3 mecs.
T'en auras. Hein. Je pense que le DLC, s'il n'est pas centré sur Vincent, qui n'est pas jouable dans ce jeu-là, au même titre que Sid, je pense que le DLC qui va faire le tampon entre Rebirth et Résurrection, je ne sais pas.
Si ça fait plaisir aux fans de voir des références à Dirge of Cerberus et à First Soldier.
Bah, on l'avait déjà eu,
Dirge
of Cerberus,
dans
Intergrade.
Amusez-vous bien, mais je ne pense pas que ça enrichisse l'expérience de jeu des gens. Je vais vous dire un truc, déjà Zack, je trouve ça déjà pas très intéressant.
Ah bah Zack, il fait partie de l'univers de Final Fantasy.
Ah bah oui,
c'est
le premier mec d'Aeris.
Mais je trouve pas sa vie intéressante.
À tel point d'ailleurs que quand t'es à Nibelheim, le Cloud que tu vois, on me l'a fait remarquer, il a les comportements de Zack.
Mais moi je trouve pas intéressant.
Non, si.
Je trouve pas ça intéressant. Non, mais je trouve pas ça intéressant.
Tu peux pas faire FF7 sans Zack, en fait.
Mmh. Oui, non, mais.
Autant les serpillères, je peux comprendre.
Non, mais je comprends. Moi aussi, je lis des comics et qu'à un moment, il faut avoir le comics 180 pour comprendre le.
Il était déjà là dans le jeu d'origine.
Un peu là dans le jeu d'origine.
Non, il était là dans le précédent.
Il était là dans le précédent, mais je trouve que, tu vois, quand la fin du premier. On peut quand même parler de la fin du premier.
Oui.
Quand il arrive à la fin du premier, je vais. Qu'est-ce qu'ils sont genre.
Ah si. On s'était quand même bien amusé à faire des théories. Hein.
Et en fait,
est-ce qu'il y a un multivers Square Enix ?
Parle vraiment aux gens qui aiment bien.
Non, parce que ça rebat les cartes de Final Fantasy VII. Bah oui, mais c'est important, ça fait partie de l'univers.
Je trouve que ça affaiblit globalement l'histoire simple de FF7. Oh, et l'histoire de FF7, c'est simple. C'est quand même une histoire de pouvoir, une histoire d'un mec Sephiroth.
C'est l'histoire d'un mec.
Et toi, t'es à sa poursuite. Et globalement, t'as une.
C'est pas que ça.
T'as une Zaibatsu, c'est du mal.
Bah, déjà, au-delà du versant écologique, c'est aussi la manipulation d'un mec qui ne croit pas être. Qui est schizophrène, en fait.
Oui, oui, bien sûr. Mais je trouve que tout le truc qu'ils essayent de brader autour. Mais c'est pas le truc dans le jeu original. Dans le jeu original, c'est très bien comme ça.
Ah, dans le jeu original, il y a pas mal de choses qui. Dans le sous-texte, quand même.
Mais je trouve que c'est. Ah, attention, c'est le moment des mugs.
Ce que je peux dire sans entrer trop loin dans la balise spoiler, c'est que. Ils se tirent vachement bien de la fin et assez intéressant pour ce qu'il a proposé. Donc, le jeu en vaut la chandelle. Même si vous trouvez peut-être par un moment le jeu un peu long, si vous avez envie d'accélérer le mouvement. Et en plus, à la fin, on se mange quand même des sacrés tunnels.
Tu dois monter 47 étages.
Ah, quand j'ai vu le pourcentage qui avançait plus, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe. 82%, en fait t'as encore 15 heures. Et si vous trouviez que la fin de FF7 Remake était très étalée, alors là,
avec l'autoroute qui n'en finit plus, oui.
Je me souviens, quand j'étais en haut de la tour, je me suis dit ah tu sais quoi, je vais tout faire d'un coup. Et en fait faut surtout
mais
pas.
Mais la récompense vaut le parcours et c'est
donc
c'est alors, très intéressant.
Je te pose la fin est satisfaisante.
Ouais, je la trouve très. Très bien.
Elle te donne envie de jouer en troisième
plus.
Ce qui va arriver, c'est sûr.
Dans 4-5 ans, mais quoi qu'il arrive, de toute façon, le jeu est. Alors, j'ai eu des griefs dans le jeu parce qu'il était trop long par rapport au temps que je pouvais lui accorder. Et quand tu joues avec un chronomètre au-dessus de la tête pour aller bien des émissions, tu prends moins de plaisir, surtout dans un jeu qui passe son temps à débloquer des trucs dans tous les coins. Mais. Comme on l'a dit, tous les tunnels sont vraiment hyper captivants et le tunnel de fin l'est aussi. Et bon. J'ai fini sur une bien meilleure impression qu'au moment où je me suis retrouvé avec la troisième région à refaire systématiquement dans des régions qui en plus te contraignent vachement parce que Gongaga à traverser ou même Cosmo Canyon d'une certaine façon sont des zones qui sont moins plaisantes à parcourir parce que t'as beaucoup d'obstacles.
Bah ouais.
Tu es obligé soit d'avoir un
rochers,
chocobo volant,
des...
soit avoir le fameux chocobo qui saute de champignon en champignon.
Est-ce que c'était plus satisfaisant que le précédent opus ?
On a fini la partie spoiler ou pas ?
Non, tu peux. On est encore en spoiler.
Encore en spoiler ? Parce qu'on va arriver vers la moment de.
D'accord, ok, c'est la satisfaction.
Allez,
c'est la satisfaction.
Fin de la partie spoiler.
Ouais.
Voilà. Hop, voilà. C'est le moment de. On arrive à la conclusion de ce Famitsu Mimasen spécial Final Fantasy VII Rebirth. Est-ce qu'on est satisfait du jeu ?
Toi d'abord.
J'ai eu des moments de doute. Non, mais c'est vrai, il y a des moments où je dis c'est trop long. Je pense qu'il est trop long si tu le fais à 100% pour son propre bien et pour son propre rythme. Je pense que si tu le fais de la bonne manière, alors bonne manière, c'est un gros mot.
Il
n'y
a pas de bonne manière.
Chacun en tout cas, de la manière la plus.
La manière réaliste.
La manière réaliste dans
c'est-à-dire
une.
Si tu étais à la poursuite d'une menace terrestre.
La manière scénaristique du jeu. Donc, c'est-à-dire que tu vas en ligne droite en t'attardant ici ou là dans ce qui t'est proposé et en faisant les moments
mais
du
golf. Mais en restant quand même focus.
Le golf saucer t'oblige de toute façon à faire certains trucs. Donc, tu vas quand même goûter à tous les parfums
t'es
de la glace.
T'es obligé d'y jouer une fois, à tous.
Mais si tu fais dans une perspective de 40-45 heures sans t'astreindre à tout, au 100% tout de suite et auquel cas tu pourrais y revenir, c'est vraiment un super jeu. Je pense qu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup trop à mon sens et à mon goût. Mais je peux pas dire. Enfin, ça reste une démonstration de force. Je sais pas dans quelle mesure il y avait aussi la volonté de mettre une pilule à l'autre studio. Je sais pas s'il y a des concurrences internes comme ça.
Ah, de FF16 ou de FF15.
Mais.
Arrêtez de parler d'FF16.
Ouais, bon, voilà, on parle pas de FF16, mais en tout cas, c'est une démonstration. Vraiment. C'est. Bravo, bravo aux concepteurs. C'est impressionnant. Vraiment.
Je vais enquiller alors. J'ai trouvé ça globalement très satisfaisant. J'ai pris plus de plaisir en tant que jeu que le précédent opus. Je pense que le scénario est un peu plus faible globalement parce que le premier parlait plus de choses intéressantes en fait.
Et puis parce qu'il couvre la partie la plus récréationnelle de FF7. Hein.
Et parce qu'il est très très centralisé. Il y a un endroit, il y a une unité de lieu. Maintenant, bon bah si t'aimes pas ce village, tu peux aller dans le village des. Tu peux aller dans le ranch des chocobos, enfin tu peux arnacher un chocobo, tu peux aller
tu t'éparpilles.
Voilà, tu peux aller faire l'espièglerie avec le niveau d'espièglerie, tu peux rejouer au jeu de Mog si tu veux, enfin je veux dire ça va dans tous les sens. Donc je pense que le premier est un moins bon jeu mais peut-être mieux construit.
Le bac à sable est mieux défini, peut-être.
Ouais, mais j'ai pris quand même beaucoup de satisfaction et surtout, ça me fait plaisir de voir un niveau de jeu triple A japonais à ce niveau sur un JRPG. Parce que on l'a dit par exemple à l'époque de Grand Blue, on disait ah c'est ça, s'il y avait beaucoup de budget ça donnerait ça à un action RPG. Je suis très content d'avoir vécu ça. Et on va pas reparler d'un autre jeu qui est sorti précédemment, mais par rapport au 16 je trouvais ça vraiment plaisant, vraiment il y a des moments où j'ai vraiment pris mon pied, et les moments narratifs, les moments de où ça te raconte l'histoire des personnages, et que tout d'un coup t'as Balette qui te raconte un coup de truc qui lui est assez cher et tout. Il y a des moments assez émouvants et sont bien construits, et les moments drôles sont très drôles. Voilà, vraiment c'est pas cringe, c'est pas tu sais Star Ocean où tout d'un coup tu fais est-ce que je suis vraiment dans ce délire là et tout. Non vraiment je trouvais ça bien, globalement bien écrit, surtout très conscient. C'est vraiment un jeu très conscient de ce qu'il est. C'est très post-Death Stranding un peu, tu vois, c'est des jeux très très conscients de ce qu'ils sont. Et je trouvais ça intéressant, et je pense qu'on en rediscutera l'épisode, pour moi, l'épisode suivant. Quand j'aurai fini le jeu, je pense que je peux me réserver évidemment le droit de changer d'avis ou de tout ça, mais en tout cas, pour l'instant, j'en suis très satisfait.
On refera un point FF7, tu penses?
Ah, bah, y a des chances, oui, obligé. Ouais, obligatoirement.
Obligé.
Bah, on n'aura pas le temps, il y a Dragon's Dogma 2.
Ouais, les Rise of the Ronin.
Oh merde, il y en a. Oh là là.
Et Unicorn Overlord.
Mince. Merle.
Comment on valide
Greg, toi qui es un défenseur de Final Fantasy depuis.
Oh, je les défends pas tous non plus, mais. Non, écoute, celui-là, je le trouve vraiment brillant parce que alors déjà en tant que joueur, je pense que c'est un jeu, comme tu l'as dit, qui est très satisfaisant parce que tu peux le faire comme tu veux. C'est vraiment un jeu à la carte, et c'est brillant parce que tu ne te sens pas forcément lésé. Alors tu te sens lésé en tant que connaisseur de Final Fantasy parce que tu sais que si tu remplis pas tout ton Pokédex ou quoi, bah tu vas louper la super épée ou le super manteau ou le super accessoire. Mais le jeu n'a pas besoin de ça. C'est-à-dire que si tu le fais vraiment pour son scénario, t'as pas besoin d'avoir la materia qui renvoie la magie, t'as pas besoin d'avoir l'invocation d'Odin. Tu peux avancer et poursuivre Sephiroth, parce que justement le jeu est rendu tellement réaliste par sa réalisation et par sa mise en scène aujourd'hui que t'as pas besoin d'un pouvoir magique. C'est-à-dire que comme tu es dans quelque chose de très cinématique, la volonté et le pouvoir de l'amitié suffisent au final. Donc si t'es pas bien équipé, tu seras moins frustré que si t'es pas bien équipé dans un Persona où t'es quand même encore très jeu vidéo. Donc Final Fantasy VII te permet de faire un peu comme tu veux. Ça, c'est vraiment super d'avoir un jeu à la carte. Je pense encore une fois que le cahier des charges était énorme et qu'ils s'en sont rajoutés. Quand tu vois le nombre de mini-jeux ils en avaient pas besoin en fait, et malgré tout ils les ont mis quand même parce qu'ils se sont dit tiens, j'ai une idée, si on mettait le jeu de cartes qui est hyper complexe pour rien, mais qui est gratos. Et malgré tout, moi qui déteste les jeux de cartes, ben je suis pas obligé d'y jouer, tu vois. Quand la croisière commence et qu'on te dit il y a un tournoi de jeux de cartes qui arrive, et je dis mince, mais je vais devoir être obligé de jouer au jeu de cartes pour avancer l'histoire. Eh ben non, en fait. C'est-à-dire que tu peux abandonner et c'est pas grave, le jeu continue quand même. Alors là, c'est un peu con-con parce que du coup, j'ai perdu au premier tour parce que ça m'intéresse pas et j'ai abandonné le tournoi. Mais après, les champions continuent à me parler, genre « Ah, Cloud, j'ai beaucoup de respect pour toi » et tout. Enfin, tu sais, c'est... Ça n'a aucun sens, tu vois. C'est comme si Kayane me disait « Ah, Greg, j'ai hâte qu'on refasse un match ensemble. Qu'est-ce que tu racontes ?» Mais justement, tu n'es pas obligé d'être bon au mini-jeu. Et ça, c'est vachement bien, tu vois. Moi, je repense toujours à ma tante qui a plus de 70 ans et qui fait tous les RPG japonais qui sortent depuis... elle fait au moins tous les DQ et tous les FF depuis Phantasy Star 2. Et je pense que physiquement, pour elle, c'est compliqué aujourd'hui d'avoir le meilleur score aux courses de chocobo ou quoi. Et t'es pas obligé de les faire. Et ça, déjà, c'est bien. Et encore une fois, le monde est ouvert, mais t'es pas obligé d'aller retourner chaque caillou. Évidemment, c'est Final Fantasy, donc t'as envie d'avoir le meilleur équipement parce que on vient aussi d'une génération où il fallait absolument avoir le chocobo doré pour aller battre Omega Weapon, pour aller récupérer... il fallait récupérer la matéria des chevaliers de la table ronde pour pouvoir battre Omega Weapon. On est aussi de cette génération-là où il y avait deux ou trois trucs où il fallait vraiment faire le jeu à 100%. Bon là, si tu veux faire un jeu... Enfin, si tu veux vraiment faire FF7 Rebirth à 100%, il faut poser un congé maladie ou une année sabbatique. Mais En tant que joueur de FF, tu as envie de le faire, mais tu n'as pas besoin de le faire. Et c'est ça que j'apprécie beaucoup. Et rien que ça, c'est vraiment une grande maîtrise de game design. Et rien que pour ça, je pense que le jeu devrait être enseigné en école de game design. Il a plein de problèmes, hein, mais rien que pour être capable de construire un jeu dans lequel c'est le joueur qui impose son rythme, c'est vraiment brillant. Parce que t'es jamais lésé. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire pour moi. Surtout aujourd'hui où tu sais que la moyenne d'âge des gens qui jouent aux jeux vidéo console, enfin à la maison quoi, et pas sur téléphone, c'est plutôt 40 ans. Donc comme tu disais, des gens qui ont un pouvoir d'achat, mais qui n'ont pas forcément beaucoup de temps à accorder. J'ai trouvé ça très très malin. C'est-à-dire que soit t'es un complétiste et tu joues à tous les jeux, et du coup bah, tu peux pas rentrer dans chaque jeu. Soit vraiment tu te dis, bon bah les 3 prochains mois de ma vie, les 3 prochains mois de ma vie, ce sera FF7 Rebirth. Je rentre chez moi le soir, je joue à ça, le week-end je joue à ça, et c'est un jeu qui va m'occuper, et pendant 3 mois j'achète aucun autre jeu. Et de ce point de vue-là, c'est brillant. C'est-à-dire que c'est fait par des quarantenaires pour des quarantenaires. Alors, je veux mettre personne de côté, hein, évidemment. Bien sûr que les gens de 20 ans peuvent jouer à FF7. Voilà, ma tante de 70 ans va y jouer aussi. Mais le cœur de cible est parfaitement identifié, et la démonstration de la manière dont on fait un jeu pour les gens qui sont occupés, mais qui est le jeu peut-être le plus riche qui sortira cette année, la démonstration est brillante. Donc voilà.
Bah écoute, on va ouvrir.
Je trouve aussi un détail.
On va l'afficher pendant que Daniel, tu conclues.
Un détail, je trouve que cet épisode-là est plus intéressant que le précédent si tu n'as pas joué à FF7. Je trouve que celui-là, il t'embarque dans une histoire. Alors que le précédent.
Ah, Midgar, c'est difficile quand même. C'est quand même.
Il était quand même.
Midgar, il se passe
plein de choses.
Midgar était très fan service.
Le précédent était un jeu dans le souvenir d'FF7. Là, tu sens quand même qu'ils sont un peu. Ils sont allés un peu au-delà quand même.
Hubert, Saint-Hubert, est-ce que tu as devant toi notre fameux PDF?
Est-ce que avant qu'on mette la note, je peux parler du bug qui m'a énervé et
Allez,
où j'ai sollicité votre aide?
Façon, bien sûr, oui.
Alors, j'espère qu'il y aura un patch Day One ou quoi que ce soit, mais en fait, moi je me suis retrouvé coincé, je ne sais pas si vous vous souvenez, je me suis retrouvé coincé dans la mine de Mithril. Allez, au moment où tu es avec Barrett et Red 13, quand tu tombes dans le trou et il faut que tu grimpes, et j'ai passé 20 minutes parce que je ne trouvais pas où est-ce qu'il fallait, donc vous m'avez dit bah, c'est là et tout, et il n'y avait rien. Et vous m'avez dit, mets la luminosité à fond. Et donc, j'ai mis la luminosité à fond. Et là, j'ai vu des trous dans un mur. J'ai dit, mais c'est bizarre, il n'y a rien. Et donc, j'ai rebooté le jeu. Et quand j'ai rebooté le jeu, là, les marches auxquelles tu t'accroches pour grimper au mur sont apparues. Donc, j'espère que j'ai été la seule victime de ce truc-là, mais ça m'a rendu fou. Et donc, j'en ai encore plus voulu aux gens qui ont dit, oh, c'est nul, ils ont peint les marches en jaune. Parce que ouais. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Le jeu, au final, se veut tellement réaliste graphiquement. Mais bon, ça, c'est un reproche de ma part. Et pourtant, je ne mets pas de lunettes. Mais, en tout cas, voilà, non, c'est un jeu qui est vraiment brillant, je trouve.
J'avais mis Unicorn Overlord. On n'en parlera pas ce mois-ci parce que vous aurez bien compris qu'on n'a pas eu le temps d'y jouer. D'ailleurs, on l'a pas reçu.
On l'a pas encore reçu. Mais il y a la démo, mais on peut pas.
Rassurez-vous, ça fera partie des. Puyo. Il y a la démo, quoi qu'il arrive.
Moi, je ne mettrai pas de notch, j'annonce.
Ah oui?
Non, j'attends
la fin. Écoute, moi, je vais quand même mettre 8, ce qui est pour la simple et bonne raison que la partie open world m'a quand même fatigué. Voilà. Aussi incroyable soit le jeu, aussi incroyable soit le système de combat et la réalisation. Je pense que.
Une moyenne de 8.
Je pense que. Là, ouais. Des 8 en batterie. Je pense que l'équilibre entre monde ouvert et jeu narratif ne s'est pas fait, et que le jeu narratif reste bien meilleur que le monde ouvert qui est pénible par moment à parcourir. Voilà.
Moi, je fais pas comme toi, je mets 9, tout simplement parce que justement, je trouve que le monde ouvert, c'est un bon monde ouvert. C'est un monde Ubisoft.
Ouais, mais
contrairement.
C'est des mondes fatigants, les mondes Ubisoft maintenant.
Oui, mais ils sont fatigants parce que t'es obligé de les faire.
Oui, c'est vrai que là, t'es pas obligé.
Voilà.
C'est la différence.
Là, tu les fais à ton rythme. Je veux dire, ce qui me faisait peur au début de Final Fantasy, c'était ce côté Far Cry Fantasy où, tant que t'as pas ouvert la tour, tu peux pas avancer. Là, tu t'en fous. Tu peux marcher sur le bébé chocobo et lui dire, Osef, de tes arrêts de bus, je vais direct au mont machin. Ça pose aucun problème. Et c'est pour ça que j'ai envie de récompenser le jeu. C'est que tu tout ce qui est pénible. Enfin, ou tout ce qui peut sembler pénible est évitable.
Et y a un détail aussi, c'est que tu peux... moi, en tout cas, je prends plaisir d'aller d'un point à un autre de la map. Genre, tu me dis que la ville est là, et j'adore prendre le chemin. Enfin, j'aime bien la randonnée de ce jeu-là.
Très bien. Bien, merci messieurs pour ce point particulièrement exhaustif. Mais ouais, je trouve qu'on s'en est bien tiré. Satisfait. Non, vraiment, c'était cool de pouvoir parler, pouvoir échanger avec vous depuis le temps qu'on on concentre la Cosmo Energy pour enfin évoquer le sujet de Final Fantasy VII Rebirth. Et bien, on est ravis de l'avoir fait.
Et une moyenne de 8,5 pour l'instant.
Ouais, une moyenne de 8,5. Qui sait si ce sera 9 ou 10 ou 8. On va voir.
C'est un jeu qui repose
le mystère plan,
sur le...
Il faudrait être là.
Sur la mystique de la fin. S'il faut que je vois la fin quand même.
Il faudrait être là pour Soumis à 7 Turbo épisode 14.
Ah bah, peut-être que moi, du coup, je vais baisser ma note.
Ah,
si la fin me plaît pas.
Oh là là là, là, là. C'est vrai que c'est là. Ça, c'est les notes à la carte, là aussi, j'ai l'impression.
Mais
bien,
attends,
c'est le but. Bon, et bien merci, on a évoqué le cas Final Fantasy VII Rebirth, mais il y avait d'autres jeux qui sont sortis dans le courant du mois de février,
ah ouais.
Début mars. Alors, on le répète, on n'a pas eu le temps de tâter Unicorn Overlord, et même les autres jeux de cette sélection, de cette rubrique, bah, il a fallu qu'ils passent un peu entre les mailles du filet. On va vous les décliner sur ce superbe PowerPoint maison. Hein. Voilà, regardez, jeudi mois Final Fantasy VII Rebirth. Le premier jeu qu'on va évoquer... C'est Mario versus Donkey Kong, sorti sur Switch.
Ton jeu coup de cœur, tu m'as dit.
Ah non, bah justement, oui, ah bah tu spoil. Non, j'ai dit que j'avais justement pas eu le coup de cœur pour remake. Voilà, c'est ça. Remake de la version Game Boy Advance.
Est-ce que c'est parce que le jeu original est pas ouf ou...
Je pense que ça tient un peu à ça, parce que le remake est de bonne facture. Bon, évidemment, on retrouve les modèles 3D habituels désormais de la famille Nintendo, rondouillards, très colorés. On a envie de les empoigner comme ça, comme des petites peluches. Le jeu lui-même... Le jeu lui-même,
c'est pas ouf.
Ça se on est dans un magasin de jouets, Donkey Kong a tout en envoyé, voilà, il y a des petits Mario, il faut les récupérer. Et une fois que tu les as tous récupérés, t'as deux niveaux spéciaux. Un où il faut les faire avancer vers la sortie et un autre où tu combats Donkey Kong dans un défi de boss. Donc ça se déroule en plusieurs phases distinctes avec des mécaniques de plateforme qui sont assez... Alors, à la fois précise, à la fois bizarre. C'est-à-dire que.
Faut que tu te mettes sur les mains.
Très conditionnel. Alors, il faut te mettre. Alors, t'as le saut normal, t'as le saut les mains, le saut poirier, puis le double saut poirier. Donc, un saut carpé, finalement. Et.
Non, carpé, c'est.
Ouais, ah oui, carpé arrive à écart. Ça me rappelle les cours de gym, c'était l'enfer.
Et. Ah bah, le kung fu. Hein.
Et donc, t'as des bonus plus ou moins riches à récupérer. T'as des niveaux plus durs qui se débloqueront une fois que t'auras fait l'intégralité des premiers mondes.
Je pense que t'as fait plus sur ce jeu que la plupart des médias, tous les médias confondus dans le monde.
Oui, non, bah après c'est un jeu que les fans connaissent, les amateurs du genre apprécieront peut-être. J'avoue que
tu
moi...
Tu veux dire qu'il n'y a pas d'effet Super Mario le film ?
Non, je sais pas.
Tu veux que je te dise, le truc de ce jeu pour y avoir joué, ça me fait penser aux missions VR de MGS. C'est pas le vrai jeu, mais ça peut être un super jeu si tu te concentres que sur ça.
Ouais.
C'est juste, c'est pas assez.
Il y a une souplesse très particulière qui est liée à ce jeu-là parce que c'est des formats très carrés en termes de niveau, de conception de niveau. Donc il faut que les sauts soient très calibrés. Ouais, ouais. Et du coup, t'as pas la physique à laquelle tu es habitué du personnage, mais ça, en l'occurrence, c'est pas si grave. Mais le fait de l'avoir 3D-ifié ici, comme ça, il y a certains obstacles, notamment je pense aux échelles et aussi à toutes les lianes. Parce que forcément, ça fait écho à la philosophie des Donkey Kong originaux, notamment Donkey Kong Junior. Et quand tu grimpes de liane en liane, si tu grimpes. Avec une seule liane, tu vas moins vite que si tu grimpes en tenant chacun des trucs. Et c'est toute une rythmique à laquelle il faut s'habituer. Pour l'instant, je suis pas arrivé sans doute assez loin pour y prendre.
Je pense que tu vas le squatter.
Non, mais laisse tomber.
Maintenant que t'as fini FF,
ça laisse tomber. Je pense je suis arrivé au troisième, quatrième monde.
C'est bon, t'en as fait le tour.
Bah, le jeu dure 5 heures, donc j'ai dû y jouer allez, 2 heures.
Tu veux dire qu'au sixième monde, il y aura pas Sephiroth et que.
Je pense que il y a du pain sur la planche et c'est pas pour lui que je vais le découper. Ouais. Daniel, t'as pu toucher un petit peu
ouais. À ça ?
Oui.
Oui,
t'avais fait l'original même... peut-être, je sais pas.
Non, j'avais pas fait l'original.
Ouais, moi non plus.
Je suis du même avis. C'est genre ça me transcende pas quoi.
Ouais. C'est mignon.
Je suis un peu perplexe justement par cette séquence-là. On voit que la clé, elle a une certaine autonomie, mais pas ouais. trop. Dès que tu l'as bougé, t'as 12 secondes. Enfin, c'est très bizarre. C'est vraiment des codes très particuliers. C'est pas le Pikmin. C'est pas le Pikmin
c'est
de rêve.
C'est pas Pool Block, ça. C'était vachement bien, ça, Pool Block. Mm-hmm. C'est incroyable. Mm.
J'ai essayé le jeu sur des novices et tout. Et... Ouais. Ah, c'est sympa. Voilà. C'est...
Bon, grosse campagne d'affichage à Paris. Hein,
ah ouais,
ouais.
Ah ouais, très bien.
Sur ce jeu,
c'est le gros jeu de mars, hein, finalement. Ah non, il y a Super Princess.
Ah, c'est Princess qui est le gros jeu.
Oui, ça, c'est le jeu de février, pardon. Oui, le gros jeu de mars, c'est Princess Peach. Comment elle s'appelle déjà ? Je sais plus. Princess Peach Showtime, je crois. On poursuit avec un autre jeu. Je sais pas si vous avez pris le temps de télécharger la démo de Silent Hill de Short Message.
Non.
Pardon.
Pas pour moi.
pas pour moi qui avait été présenté durant le State of Play mis en ligne dans la foulée. C'est un, alors c'est pas un avant-goût d'un jeu à venir puisque c'est une relecture des codes de Silent Hill avec toute une thématique de harcèlement un peu enfoncé au forceps. C'est un studio japonais qui est à l'œuvre.
C'est pas subtil.
Exactement, vous avez décodé.
Incroyable.
C'est pas subtil pour un sou et c'est bien dommage. Et surtout, le gameplay n'est pas transcendant, malheureusement. C'est-à-dire que y a,
c'est gratuit. Qu'est-ce que tu veux gratuit. Gratuitement.
Comme disait Hervé Villard, t'as pas payé, tu vas pas gueuler.
Ce qui est quand même la phrase. Dire si c'est gratuit.
C'est une vraie phrase.
C'est une vraie phrase. T'étais au concert d'Hervé Villard.
J'étais au concert d'Hervé Villard en 95. Lionel Verlet, donc notre concepteur de vignettes, s'en souvient. D'accord. Parce qu'on a assisté tous les deux à ce moment-là.
Et donc, si je dis à ton cousin, t'as pas payé.
Tu vas pas gueuler. Ah oui, t'as pas payé les vignettes, tu vas pas gueuler.
Ah bah non, les vignettes,
bah si, oui.
Ah bah non.
Bon, tout ça pour dire que du coup, voilà, ça se veut à la fois aventure narrative avec beaucoup de séquences classiques. Voilà, tu te balades de salle en salle et il y a des moments où t'as des petits jumpscares. Thématique du suicide assez lourde, évidemment, et notamment suicide en milieu scolaire avec cette.
La meuf veut personne. Suicider alors qu'elle a 37 000 followers.
Voilà, enfin, et bizarrement, ils ont délocalisé. Ils ont délocalisé l'atmosphère de Silent Hill en Allemagne. Voilà, peut-être finalement qu'il y avait des rapprochements à faire.
Tu veux dire qu'après les studios espagnols qui font des jeux japonais, il y a les japonais qui font des jeux allemands. C'est ça la mondialisation finalement.
Il y avait des jeux connus japonais qui se déroulent. Tu tiens de Shadow of.
Soul Calibur.
Shadow of the Damned.
Non, Memories, le truc de Konami. Le
Shadow of Memories, oui, ouais. Bien sûr.
Qui se déroule en Allemagne.
C'est vrai.
Très très bon jeu.
Au centre du village. C'était en 2000.
Sur PS2.
2001, c'était sympa. Là, c'est moins sympa. L'avantage, c'est qu'il est très court, mais le problème, c'est que même sur les deux grosses heures de jeu, il y a des séquences qu'on appellera pudiquement les séquences de Pac-Man, où tu te fais poursuivre non pas par Pyramid Head, mais par une espèce de monstre qui a des feuilles qui lui tombent depuis la gueule. C'est assez bizarre, quoi. Étrange comme conception. C'est le concepteur des monstres originaux de Silent Hill 2 qui a repris son chevalet pour nous plonger dans cette horreur-là. Et le problème, c'est que ces phases Pac-Man sont hyper complexes, scriptées, infernales. Tu ne te repères pas à 2 mètres puisque tu as forcément une espèce de brouillard. Et la séquence finale, notamment du jeu, c'est du die and retry pur. Et déjà, tu as envie d'en finir. En plus, ça vient s'ajouter.
On va prendre les couloirs par cœur, c'est ça ?
Tu as 5 ou 6 trucs à récupérer dans un dédale qui est où tout se ressemble et le moindre pas de côté, t'as l'espèce de monstre qui surgit et qui te bouffe et qui te one shot. C'était une épreuve.
Ouais, c'était frustrant.
C'était plus frustrant qu'amusant, voilà. Et en plus,
écoute, ça a l'air graphiquement très correct. Hein,
oui, graphiquement pas pourri, comme on disait, mais ludiquement, ludonarrativement moyen.
J'en reviens encore à Hervé Villa.
Ouais, voilà, exactement.
T'as pas payé.
D'ailleurs, ça s'est téléchargé à plus d'un million d'exemplaires dans la foulée.
Incroyable.
Parce que forcément, gratuit, ça
gratuit,
se télécharge.
Gratuit, les gens paient pas. Ouais. C'est étonnant.
Je sais pas dans quelle mesure ça nous préfigure des prochains Silent Hill, puisque c'est pas Bluebird Team qui est derrière. Hein. Mais bon, ça, si jamais vous avez une heure et demie à tuer, n'hésitez pas. C'est gratuit.
C'est vrai que ce mois-ci, il y a pas beaucoup de.
Oui, on a du mal à trouver le temps. Allez, on va poursuivre un petit peu plus longuement cette fois-ci avec un jeu cher à notre cœur qui s'appelle Game Center CX 1+2. Et ben, je vais laisser Daniel en parler, puisque
Remake.
C'est toi qui en a parlé un peu plus, qui a joué un peu plus longtemps.
Ah, j'adore la série des Game Center.
Alors, Retro Game Challenge en US.
Retro Game Challenge. Je vais renvoyer la balle à Greg pour lui demander.
Ah, j'y ai pas joué. Qui
est cette personne qui s'appelle visiblement Arino ?
Shinya Arino qui est. Ok, le Marcus japonais, on va dire. En gros, il a une émission dans laquelle il va jouer à des vieux jeux et commenter ces vieux jeux, mais pas que. C'est-à-dire que
il donnera des tips.
Il va donner des astuces. Il va dire, hey, ce jeu-là, il était super connu parce qu'à l'époque, il y avait un bug incroyable. Là, là. Il va aussi, d'ailleurs, pendant l'émission, ça arrive, aller retrouver les gens qui ont conçu le jeu auquel il est en train de jouer. Et dire, ah, mais alors, moi, je me souviens, quand j'étais gamin, on jouait à ce jeu et il se passait ça. Ah oui, haha, en fait, on n'avait pas assez de RAM, donc on a planqué un truc là. Donc, c'est une émission qui est une espèce de belle Madeleine de Proust du rétro gaming, où il y a évidemment une partie où le présentateur joue en commentant ce qu'il fait, mais il se met aussi des défis. dit, ah bah, y a des gens qui disent que c'est possible de finir Megaman sans se faire toucher. Je vais essayer de finir Megaman sans me faire toucher. Et donc, c'est, tu le vois souffrir, tu le vois faire des nuits blanches au bureau et tout. Parce qu'il est toujours, voilà, il est toujours au bureau et puis
et
il
a son espèce d'uniforme.
Voilà. Et bah, c'est un jeu dans lequel ce monsieur se lance des défis sur des jeux rétro et l'émission a eu tellement de succès. C'est le pinacle du méta, puisque désormais, cette émission existe en jeu vidéo. Donc, il y a eu plusieurs jeux qui sont sortis sur les consoles précédentes.
DS, 3DS.
Et où c'était justement des simulateurs de petits garçons des années 80. Donc, tu jouais à des faux jeux rétro. Donc, des clones de Castlevania, des clones de Gradius, des clones de Ghouls and Ghosts. Et les jeux étaient super durs, et donc tu avais une partie aventure où tu devais sortir du jeu pour être dans la chambre du petit garçon que tu incarnes et aller lire des vieux Famitsu dans lesquels il y avait des faux articles et il y avait donc des tips pour te dire, voilà, si tu n'arrives pas à finir ce jeu, il faut faire comme ci et comme ça. Donc c'est une simulation de petits garçons qui jouent aux jeux vidéo dans les années 80. C'est un concept très très particulier, mais qui a eu du succès. Quand même, et parce que c'est vraiment une certaine forme de nostalgie. Le jeu en plus est très bien écrit, donc la plupart des articles que tu pouvais lire dans les magazines étaient vraiment remplis aussi de clins d'œil à une presse de cette époque-là. Enfin, tu vois, tu disais graphiquement pas pourri, c'est le genre de phrase qu'on pourrait retrouver dans la VF.
C'est comme si tu feuilletais des faux consoles plus à la recherche d'astuces pour débloquer des avancées.
Bah, Joypad, c'était mieux.
Ah oui, bien sûr. Pardon, oh là, excusez-moi. Je savais pas que la guéguerre était encore.
Il n'y a pas de guéguerre, on a gagné.
Ah oui.
Voilà. Bon, tout ça pour dire que. Voilà.
Yoann,
t'as du mal à démarrer ?
Et donc, surtout, les pastiches sont de qualité. Hein. C'est un studio qui s'appelle Indie Zero qui fait les Theatrism. Hein. Aujourd'hui, ils sont surtout connus pour cette série-là, qui était au chevet et qui réussit à faire des pastiches de tous ces jeux de cette époque.
Et comme disait Greg, c'est très bien écrit parce qu'en fait, c'est ce qu'on voit, c'est deux copains. Donc, il y a ton personnage et Arino qui est petit dans les années 80. Et vous discutez. Alors, de temps en temps, il y a la maman qui intervient en disant « Hey, Arino, il faut venir bouffer, tout ça. »
Parler de voir.
Et toi, t'es avec ton pote et ton but, c'est de relever les défis du dieu du jeu vidéo.
Le démon Arino.
Et je pense que ça vaudra un très bon...
Sumimasen combo. Ah, ben oui.
Le démon Arino qui est une ref directe au démon du docteur Kawashima.
Tout à fait.
Et il y a plein... Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que les jeux suivent à peu près la chronologie, donc la technologie. Donc, il y a, par exemple, au début, on voit des jeux NES, mais ensuite, ça devient des jeux...
Game Boy, voilà.
Des jeux SNES, il y a des jeux Game Boy... Et il y a aussi des jeux moins connus. Par exemple, il y a une espèce de Dragon Quest 3, mais qui est fait sur l'équivalent de la Game Boy Color. Donc, on va avoir les jeux, les couleurs toutes fades. Enfin, c'est très bien vu, en fait. C'est chaque époque a son jeu, a sa console. Et voilà, là, c'est la collection
de magazines que l'on feuillette avec tous
les... Et donc, là, ils te disent Wizman. Alors, Wizman, il faut... voilà les meilleurs moyens pour récupérer.
Parce que pour relever les défis, si tu as des vies infinies ou des astuces qui te permettent de warper dans une zone beaucoup plus avancée,
exemple,
tu vas répondre aux défis.
Sur la sauvegarde que j'ai prévue pour jouer avec en combo, il y aura un moment où ils me disent il faut faire un tel score, mais sur le niveau 3, mais le niveau 3, c'est chiant d'y aller. Bah, du coup, ils te donnent le pro tips dans le faux Mitsu. J'appellerais ça pas le faux Mitsu, mais le faux Mitsu. Et dans le Famitsu, on te donne les comment aller directement au niveau 3. Ça, c'est un shoot'em up jouable à 2.
Oui, c'est fait partie des ajouts de cette nouvelle version Switch. Donc, avec un shoot'em up jouable à 2, le Tetris qui est jouable à 2 et même un nouveau mini-jeu inédit.
Yataman.
Salaryman Yataro, je crois.
Yataman,
Qui, pour le coup, qui est l'équivalent de Mighty Final Fight chez Capcom de l'époque, donc avec un gameplay très NES. Mighty Final Fight et Kunio-kun.
Ouais, Yataro.
Voilà. Et la possibilité avec des petites mécaniques de RPG greffées sur un gameplay de beat'em up tel qu'on l'avait dans les Kunio-kun notamment.
Qui n'est pas si loin des amis de Ringo Ishikawa, si tu veux.
Oui, tout à fait. Donc, problème, c'est que pour l'instant, le jeu est en japonais, donc vous risquez de passer à côté à la fois des astuces, à la fois des défis qui vous sont imposés. Les jeux d'origine étaient sortis. Alors, c'était pas Bandai qui les avait sortis directement, donc à voir si ce sera le cas. Pour cette version Switch.
Mais en tout cas, c'est un jeu génial. Ouais. C'est l'écran parfait. À un détail près, c'est qu'il n'y a que deux jeux sur trois. Oui. Ils auraient pu mettre le jeu 3DS.
La version 3DS n'est pas intégrée, mais il avait été moins bien reçu, je crois.
Ah non, mais il est vraiment moins bien, le jeu 3DS, ouais.
On va poursuivre dans le rétro gaming avec un dernier jeu, avant-dernier jeu.
Juste pour dire, dans le 2, ils remettent les jeux du 1, donc c'est un peu... Voilà, donc c'est un peu doublon.
Qui s'appelle Euphoria 2 The Saga, qui est sorti fin février.
Qu'est-ce que c'est,
Pouillot ? Face de Final Fantasy VII Rebirth. Prends garde à toi.
Qu'est-ce que c'est, Pouillot ?
Édité d'ailleurs chez Red Art Games, un label français. Chez nous, eh bien, c'est la suite
De
Hebereke.
À savoir la mascotte de Sunsoft de l'époque. Je crois qu'on peut dire ça. Il y a eu plusieurs mascottes chez Sunsoft, notamment Baero, The Acrobat. Et ça fait partie de cette ménagerie. C'est un petit pingouin avec un petit bonnet. Et Hebereke, à l'époque, donc, qui est sorti aux États-Unis sous le nom Euphoria, eh bien, c'était un Metroidvania avant l'heure. Lui aussi, il avait ce côté non linéaire qui était assez relativement rare, finalement, à l'époque. Enfin, on parlait pas de Metroidvania.
De débloquer
on parlait de Metroid, de Simon's Quest. C'était pas vraiment un genre à part entière. Avec, comme tu le disais, déblocage de perso, déblocage de compétences en fonction des persos et une progression qui permet de s'aventurer dans différentes parties en fonction des pouvoirs que l'on débloque.
Est-ce que c'est un Metroidvania, ce 2?
Alors, plus ou moins, c'est qu'il a une philosophie assez particulière. C'est-à-dire que oui, tu vas débloquer de nouveaux personnages. Donc, t'as le pingouin, t'as le renard qui peut flotter, t'as l'espèce de petit poisson qui peut lui aller dans l'eau. Donc, t'as toujours ce déblocage de partie de niveau. Ça se fait toujours comme ça, mais en fait, tu es obligé de retourner dans des niveaux que t'as déjà parcourus qui vont un petit peu changer de topographie à la recherche de canettes. Canettes qui seront réutilisables dans le distributeur automatique pour débloquer des nouveaux éléments de progression. Ça peut être une carte, ça peut être une boussole, ça peut être un radar. Plein de choses qui vont donc permettre au fur et à mesure de développer les différentes régions. Lui aussi, il aura droit à son petit Sumimasen combo. D'ailleurs,
Beaucoup d'imports, ouais. Beaucoup de trucs.
Bah lui, il est disponible officiellement, tu vois.
Oui, bien sûr.
Et je voulais juste insister sur
beaucoup de jeux, genre, tout le monde fait Final Fantasy VII, Puyo. Nous, on a décidé de faire Hebereke et Game Center.
Je voulais juste insister sur la partie graphique qui nous avait bien plu, déjà au Tokyo Game Show et même à l'annonce du jeu. Déjà, c'est le retour de Sunsoft en tant qu'éditeur, parce que Sunsoft est resté très très... Enfin, Sundenshi existait toujours, mais là, ils réhabilitent le label Sunsoft pour plusieurs productions, notamment Hebereke 2, Euphoria 2. Et je trouve que le style graphique un peu à la good feel, donc les Kirby au fil de l'aventure, Wario Land, Shake Dimension, etc.
T'appelles ça comment? À la quoi?
À la Good Feel, c'est le studio.
D'accord.
C'est le studio qui fait Yoshi. Derrière.
Ah, okay, Yoshi Woolly World, ce genre de truc.
Ah oui, ok, d'accord. J'avais pas compris ce que t'avais dit.
Cette pâte à modeler, entre guillemets. Enfin, pas vraiment. Il y a l'espèce
pâte à modeler et laine.
Et laine, gameplay, je trouve ça.
Comme les émissions de l'enfance faites en stop motion, un peu.
Ouais, je trouve ça très sympa. Là, vous voyez ce personnage de fantôme qui lui peut flotter. Enfin. Je vais pas dire que c'est le plus grand jeu de plateforme de tous les temps, mais je passe un bon moment pour ce qu'il a à proposer. Et c'est déjà pas mal.
Je pense que tu peux y jouer avec ta fille.
En plus, ouais. Il n'y a pas de coop par contre. Hein. Mais c'est un divertissement. Sympathique divertissement qu'on aura l'occasion de vous présenter plus en détail. Avant de passer à la suite, un petit instant preview, histoire de nous allécher pour le mois prochain, puisque Daniel, tu as eu l'occasion de tâter Dragon's Dogma 2 plus longuement.
C'est vrai, j'ai eu l'occasion de jouer à Dragon's Dogma dans une preview. Au deuxième opus. Et je sais que toi, Pouillot, t'avais un peu l'inquiétude de est-ce que c'est pas un
1.5 ? Dragon's Dogma 1.5 ? Oh, j'aurais pas ce.
Tu sais quoi, il y a 10 ans qui sont écoulés
entre
les deux.
C'est vrai que c'est vieux maintenant.
Alors, certes, il y a toutes les mécaniques que tu connais. Il n'y a pas, en termes de mécanique pure, il n'y a pas grand-chose, à part juste les petits raccourcis, tout ça.
Tu rappelles un jeu d'action-aventure chez Capcom, qui s'enivrait dans le médiéval fantasy
qui est,
occidental.
Qui est à la fois, c'est paradoxal, parce que c'est la réponse aux Souls, avant que les Souls deviennent Souls, puisque, apparemment, Dragon Dogma était contemporain du premier Dark Souls. Et c'est étonnant de voir que deux studios, en même temps, se sont essayés de se réapproprier l'héroïque fantasy à l'occidental. Et vraiment, les environnements sont ultra travaillé, il y a une possibilité de grimper tout ça. Mais ce que j'aime particulièrement dans Dragon Dogma, c'est quand même la convivialité de l'équipe, c'est-à-dire que tes potes, ils existent, ils te parlent, ils s'arrêtent pour te dire il y a un passage secret, je sens qu'il y a un truc.
Ils montent sur des bisons.
C'était un peu artificiel ça dans le premier là.
Ouais,
tu crois que c'est plus naturel quand même.
Là, c'est un peu plus naturel. Ouais. T'as plus de fonctions. T'as vraiment le menuing est vraiment été refait. Et là, c'est le moment que j'ai adoré dans lors de ma preview. C'est le moment que je qualifierais de Monster Hunter.
Ah bah c'est la patte du jeu, ouais, c'est clair.
Il y a un colosse. Et regarde, tu as plusieurs types. Là, je joue à un archer, donc tu as plusieurs types d'armes. Tu peux faire des flèches de glace, des flèches de feu, des flèches qui rendent de l'énergie. Mais surtout, là, regarde, t'as un gros balèze, mais tu vas voir, t'as un écosystème, puisque t'as avoir un deuxième gros balèze qui va se battre. Et ensuite, encore, ça va aller de mal en pis. Donc, t'as l'impression de pouvoir croiser toujours des espèces de grosses trames. C'est très Monster Hunterisé.
Ouais, ils insistaient là-dessus, sur le côté soi-disant organique des rencontres de monstres qui peuvent se taper comme le Monster
écosystème.
Hunter World.
Écosystème.
C'est très Monster Hunterisé. Oui, et ils ont pas tort. C'est vraiment un truc que tu ressens.
Ah, c'était déjà la fusion voulue
oui,
à l'époque.
Dans le premier.
Ouais. Mais là, ils ont encore poussé plus loin.
Ils ont intensifié le truc. Les jobs se jouent très très différemment. C'est assez intéressant.
Ah oui, dis donc, là, t'as pas de bol. Il y a un troll qui te court après, il y a des loups qui veulent te bouffer.
Est-ce que la nuit, c'est toujours aussi. Est-ce que tu vois toujours pas à deux pas
Alors,
est-ce que tu meurs toujours la nuit?
T'as une lampe.
Parce que tu prends plus de dégâts.
Regarde, le loup, il m'emmène, genre, il est en train de me bouffer.
Prends un côté.
Il est en train de me bouffer. Et regarde, derrière, c'est.
Il y a tout le monde qui.
Donc, impression plutôt positive au stade de la preview.
Ah, franchement.
Gageons que la version finale sera à la hauteur de ces.
Gageons que la version finale.
Ah oui, tu t'es fait avoiner là, toi.
Ah, je me suis fait défoncer. Et après, il y a encore. Je ne vais pas montrer la vidéo, mais. Après, il y a encore un griffon.
Ouais, parce qu'il faut dire que c'était vidéo. Là, c'est toi qui joues.
Là, c'est moi qui joue. Il y a des gros griffons qui sont venus et tout.
Qui se sont dit, on va bouffer Daniel.
Ouais, non, mais genre, j'ai trois colosses sur moi en fait.
Et ça promet, en tout cas, ce sera notre gros rendez-vous.
Je suis désolé pour toi, Pouillot, mais c'est encore un jeu qui va prendre du temps.
Là, je sais pas.
C'est encore un jeu qui va prendre du temps. On a hâte de revenir à Ebereke 3.
Je sais pas si il est important d'aller jusqu'au générique de fin pour celui-là pour avoir un avis.
Et alors, il y a un moment génial, c'est que tu vois, j'essaie de m'accrocher tant bien que mal, mais ensuite. Il va choper un de mes potes et ensuite il va le balancer.
Il te balance de haut. Il y en a un qui fait de la lévitation.
Non, mais il y a vraiment plein de trucs quoi.
Très bien.
Et là, regarde, là, je suis paumé et je me dis, bon, il est où mon pote? Eh ben, il est là-bas.
Le pauvre.
Là, c'est mort instantané.
Là, il est mort instantané.
Il a gagné un niveau, tu vois.
Non, c'est nous. Mais bref, c'est vraiment l'éclate et c'est vraiment ce que j'ai envie d'un jeu que j'imagine être un peu ADD, tu vois, Advanced Dungeons & Dragons.
Eh ben très bien, ça sort le 22 mars.
Ah, moi aussi c'est un des jeux que j'attends le plus depuis le TGS dernier.
Ah ouais, j'ai hâte vraiment d'y jouer. Ah oui,
22 mars, bah c'est bon, les gens ils ont un mois pour finir.
Voilà.
Et surtout c'est un jeu très beau. Ah bah. C'est un jeu vraiment très beau.
Ouais, je sais pas, surtout que Rise of the Ronin sort exactement le même jour. Hein.
C'est pas de bol pour l'un des deux.
Oui, je sais pas lequel va être le perdant, mais je pense que
honnêtement, Rise of Ronin, je suis très très impatient aussi.
Ouais.
Mais on a vraiment les jeux japonais, on s'ennuie pas quoi.
Non, c'est clair. Dragon's Dogma 2. Eh bien, merci pour cette fin de rubrique Famitsu Mimasen. On va enchaîner sur l'actualité du jeu vidéo. Promis, je vous la fais courte, vous avez l'habitude désormais. Oui. C'est un tunnel.
Encore une heure.
Non, vous dites pas ça. Et après, eh bien, les petites surprises.
Il s'est pas passé grand-chose.
Hein si. Si, quand même. Je pensais que non, mais en fait, si, on va le voir juste après la petite coupure.